ça a été un petit peu laborieux. Donc c'est la fin ce soir, en tout cas pour cette année. Et bon, j'ai repris comme toujours mes notes. Et je vais essayer quand même de non pas de terminer tout ce que je souhaitais éventuellement aborder, mais quand même dire quelque chose pour conclure qui serait une sorte de petit bout de réponse à la question « qu'est-ce que faire dans l'urgence ?». Donc peut-être vous souvenez-vous qu'il y a 15 jours, j'avais à la fin de la séance lu 4 ou 5 pages de Victor Segalen, dans lesquelles il raconte comment lui, qui était supposé savoir, en l'occurrence, piloter une embarcation, s'est sorti d'une difficulté, ou s'est trouvé se sortant d'une difficulté, je vais dire les choses comme ça pour ce soir, en opérant un moment, un geste, sans intentionnalité particulière, parce qu'il était d'une certaine manière débordé par la situation. Et je me souviens que dans le texte, il y a une petite expression au moment où il dit qu'il l'a fait comme par instinct. Hein, voilà. Donc je repars de ça avec cette formule. J'avais utilisé il y a 15 jours, en sautant d'ailleurs un passage de mes notes, la proposition... j'étais en train de tourner autour de ça, faire passionnément, hein, qui est une sorte d'oxymore, puisque faire est un verbe plutôt actif, et passionnément impliquerait quelque chose comme une passivité ou une passibilité, pour être plus juste. Et donc je suis dans une zone assez étrange pour interroger le faire, que je dirais pour lancer la séance de ce soir... je vais essayer de réfléchir là-dessus, faire à moindre intentionnalité. C'est-à-dire essayer de penser un faire dans lequel, pour le dire vite, et peut-être pas tout à fait comme il faut, l'intention n'est pas dominante. Voilà. Donc, cette proposition, opérer à moindre intentionnalité, je pense... Et je voudrais essayer de vous montrer pourquoi je pense ainsi. Je pense qu'elle est difficile à soutenir. C'est-à-dire qu'autrement dit, l'idée qui n'est pas en fait spontanée, hein, qui est une idée, je pense, cultivée, enfin construite, est plutôt celle qui nous vient, ou que nous avons à l'esprit, et plutôt que faire, c'est faire vraiment, si vous voulez, c'est faire en ayant des intentions pour ça. Voilà, intendere, hein, tendre vers, avec tout ce qui vient avec ce mot, je ne sais pas, de perspective, de but, d'objectif, tout ce que vous voudrez de ce type. Voilà. Et je suis en train de chercher, je pense que ça a un rapport avec ce que j'ai lu sur la façon dont le converti revient au monde, enfin tel que je comprends tout ça depuis les textes de Paul. Je pense que se faire à moindre intentionnalité, c'est ce qui arrive à celui qui, par hypothèse, aurait été converti ou déplacé par l'expérience de l'urgence. Voilà. En tout cas, cette proposition n'est pas facile à soutenir. Elle heurte, dans une certaine mesure, une tradition de pensée bien installée, comme je vais essayer de vous le montrer. Conceptuellement, cette proposition... ce qui pourrait peut-être nous advenir, étant donné l'urgence, faire à moindre intentionnalité, faire passionnément, etc. Conceptuellement, ce genre de proposition vise à établir qu'un être qu'une urgence a converti, je suis dans cette hypothèse depuis bientôt 6 séances, faire à moindre intentionnalité, cette proposition vise à établir qu'un être qu'une urgence a converti, selon la traduction habituelle, hein, et que, plus littéralement, il faudrait dire un être qu'une urgence a installé dans une pensée seconde du monde. Pourquoi je dis pensée seconde? Je vous renvoie à la toute première séance, je crois, parce que le mot chez Paul, en grec, c'est métanoïa, Hein, méta, noia, donc noia, ça serait le registre de la pensée, méta, c'est ça que j'essaye de traduire en disant pensée de second temps, une pensée seconde. Alors, dans mon langage, je répète souvent, tout ce qui est second n'est pas pour autant secondaire. Hein. Donc il y a peut-être des choses qui ne peuvent advenir qu'en second lieu, bien qu'elles ne soient pas secondaires. Donc l'urgence à installer tel ou tel d'entre nous qui a été par la même converti, selon traduction habituelle, ou qui s'est trouvé par la même installé dans une pensée seconde du monde, donc celui-là ou celle-là reste opérateur dans ce monde. En tout cas, dans les textes de Paul, il revient bien dans le monde comme il est pour les autres. Voilà. Et dans ce monde, il opère, continue à opérer. Donc, par rapport aux lectures inaugurales dans ce séminaire d'Agamben, il n'est pas désœuvré. Hein, celui-là, le converti, celui que l'urgence a installé dans une pensée seconde, revient dans le monde comme il est, et là, dans ce monde, il n'est pas désœuvré, mais si donc il est opérateur dans ce monde, il ne l'est plus exactement comme avant, puisque, donc, expression sur laquelle j'attire votre attention depuis pas mal de temps, il se retrouve là comme non. Il est opérateur désormais dans le monde, non pas comme avant, mais, selon cette formule étrange, comme non. Donc, il fait ou elle fait, mais selon une différence que j'interprète de la manière suivante, il admet, comme dans le texte de Ségalène que je vous lisais la dernière fois, il admet désormais que son savoir n'est pas la clé de ce qui se fait avec lui. Voilà. Dans le texte de Ségalène, quelque chose se fait avec Ségalène, pilotant comme il peut le navire. Et son savoir, pris dans une certaine mesure dans l'urgence, n'est plus la clé de ce qui donc se fait avec lui. Ce qui se fait avec lui, ça veut dire ce qui se fait notamment par lui, ça passe par lui. Ça passe bien par lui, mais ça ne se fait pas tout par lui, ni tout depuis lui. Quelque chose se fait depuis le monde lui-même, hein, qui passe par l'homme converti, mais cet homme converti n'est pas le lieu unique et essentiel du faire. Pour faire mieux comprendre peut-être, ou pour essayer en tout cas de faire mieux comprendre ce que je cherche à vous dire, je vais ce soir rappeler des cas que j'ai déjà présentés dans un livre qui s'intitulait « Du commun ». Ces cas se situent dans un registre, vous allez le voir, qui n'est pas réputé majeur. Mais dans ce registre au moins, qui n'est pas réputé majeur, ils font, ces cas, exception à l'ordinaire d'une économie du fer. Ils font exception, je voudrais essayer de vous le montrer, à l'ordinaire de l'économie du fer. Quoi qu'à portée du commun, les cas dont je vais vous parler ne sont pas le plus souvent mis en œuvre. Alors ça c'est une proposition, je dirais, qui devrait nous paraître étrange. C'est qu'en fait, beaucoup de choses, voilà ce que je soutiens pour le dire rapidement, beaucoup de cas où du faire est possible pour nous, qui sont à notre portée, néanmoins, nous ne les faisons pas. Voilà. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, nous sommes pris dans une économie du faire qui interdit ce faire dont je vais essayer de parler, qui est pourtant à notre portée. L'ordonnancement le plus socialisé du champ d'activité où les cas dont je vais vous parler se situent, l'ordonnancement le plus socialisé de ce champ d'activité minore précisément les cas dont je vais vous parler. Il ne compte pas ces cas pour l'ordonnancement le plus socialisé. Il lui semble à cet ordonnancement sans importance. Mais, comme le disait Simone Veil dans un texte que j'avais lu ici lors d'une séance précédente, et qui prenait un autre exemple de petite taille, car les cas que je vais évoquer sont des cas de petite taille, hein, et on avait déjà vu dans un des textes de Simone Veil que je vous avais lu, des cas de petite taille, je vous rappelle, deux conditions, celle de la jeune femme enceinte et celle de la prisonnière, pour une même opération de couture, coudre une oreillette, vous vous souvenez de ce passage, hein, c'est des cas de petite taille que Simone Veil comparait, et pour lesquels, néanmoins, bien que ça soit des petites situations, des petits cas, elle disait, je recite rapidement la formule, tout le problème social est bien capable de se trouver par là résumé. Il y avait cette phrase dans le texte de Simone Veil. Tout le problème social passe au fond par là. Donc je vais faire la même chose. Je vais évoquer ce soir deux cas de petite taille, apportés, et qui, bien qu'ils soient apportés, ne sont pas le plus souvent opérés par nous. Et pourtant, peut-être, je suis la proposition de Simone Veil, tout le problème social passe par là. Peut-être tout le problème social passe-t-il par là. Alors de quoi s'agit-il? Les cas dont je m'apprête à vous parler appartiennent à l'expérience des modernes en art, c'est-à-dire à la modernité, non pas la modernité telle qu'on l'a dit aujourd'hui pour signifier en général les temps modernes, hein, c'est ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, quand on dit la modernité, en fait, on veut dire les temps modernes. Mais je ne vais pas parler de la modernité des temps modernes, comme on dit aujourd'hui, je vais parler de la modernité, de cas empruntés à la modernité stricto sensu, c'est-à-dire à ce mot qui n'avait pas cours avant Baudelaire, et dont le poète et critique Baudelaire demandait explicitement qu'on lui accorde le néologisme. Il le dit, hein, c'est dans Le peintre de la vie moderne, bien entendu, il dit en substance, bon, je vais utiliser un mot qui n'a pas cours, qui est donc une sorte d'invention langagière, et il demande, il présente d'avance ses excuses au lecteur, et il lui dit en substance, lecteur, veux-tu bien m'accorder quand même ce mot? J'en ai besoin pour faire entendre ce que je voudrais faire entendre. Donc c'est un mot nouveau, au XIXe siècle, hein. Chose que nous avons complètement oubliée. Voilà. Et moi, ça me paraît important de refaire un peu d'histoire avec ce mot. Donc je vais emprunter des cas à la modernité stricto sensu, c'est-à-dire au sens qu'a ce mot, lorsqu'il apparaît dans la langue, pas tout à fait avec Baudelaire, mais c'est lui qui en fait une sorte de concept, au point que donc il demande qu'on lui accorde le mot. Alors, soit dit au passage, voilà, me semble-t-il, ce que nous ne savons pas considérer aujourd'hui avec assez d'attention, ou ce à quoi nous n'accordons pas, à mon sens, l'importance que peut-être ça mérite. Modernité n'est pas un mot des temps modernes eux-mêmes. À ma connaissance en tout cas, je m'appuie encore une fois sur la référence de Baudelaire que je viens de vous dire, modernité n'est pas un mot des temps modernes eux-mêmes, et par conséquent, à chaque fois que nous prononçons ce mot, aujourd'hui, nous participons de la construction d'une fiction quant à ces temps mêmes. D'ailleurs, ma réserve à l'égard de Bruno Latour sera venue d'abord de ce que sa phrase fameuse « Nous n'avons jamais été modernes » aura eu, avait même peut-être d'entrée de jeu pour conséquence, de rendre négligeable, sinon erroné, du point de vue de Latour, l'expérience moderne de l'art. Donc je vais chercher des cas dans un moment qui est aujourd'hui, mettons, sous l'autorité de Bruno Latour, entre autres, écarté au fond d'être pensé précisément, ne serait-ce que pour cette raison qu'il y a au fond dans nos esprits une grande ambiguïté sur le sens même du mot modernité, pourtant extrêmement banalement utilisé. Donc je vais parler de la modernité stricto sensu, c'est-à-dire de l'expérience des modernes en art, et non pas en tout cas pas pour commencer, de l'ensemble de ce qu'on appelle les temps modernes. Précision importante, au passage, l'expérience moderne de l'art ne s'est pas pensée elle-même comme moderniste. Tout ça, c'est des mots projetés après coup. Voilà. Alors, il faudrait faire l'histoire. Enfin, moi, je demande, quand je peux, aux historiens d'art s'ils voulaient bien faire cette histoire-là, l'histoire du mot modernisme, qui ne dit pas pour moi la même chose que modernité, et l'histoire de la projection de ce mot modernisme sur l'expérience des modernes en art, hein, et éventuellement la condamnation de cette expérience au nom du modernisme qu'elle n'a jamais revendiqué. Bon, il y a des choses qu'il faudrait, je crois, préciser, voire rectifier. L'affaire des modernes en art, qui n'était pas moderniste, selon moi, l'affaire des modernes en art fut plutôt, je crois, de découvrir la trame d'un certain nombre d'opérations, d'aller au secret des conditions opératoires. Alors, bon, pour moi, là, ces mots sont lourds. Je fais allusion à mon propre travail, c'est pas très modeste, mais... quand je me suis mis à chercher ce que industrie voulait dire, mais pas seulement l'industrie depuis les temps industriels, mais depuis une beaucoup plus longue période, je me suis rendu compte que la notion de secret était au cœur du vieux mot industrie, qu'on peut endostruire, hein, si on va sur les vieilles racines latines, et qu'il y a un rapport entre... secréter et faire quelque chose dans le secret, depuis un secret, etc. Donc je fais allusion là très très rapidement à toute cette partie de mon travail à laquelle je vous renvoie un peu cavalièrement. Mais enfin bon, je pense que l'affaire des modernes en art aura été de découvrir la trame d'un certain nombre d'opérations, d'aller au secret des conditions opératoires. Ça explique pourquoi le design tel qu'il s'est... commencer à se pratiquer, à se penser, notamment au Bauhaus, a à voir avec l'expérience des modernes en art et la sécrétion des objets dans le monde en général. Hein. Et c'est ça qu'il cherchait, découvrir la trame d'un certain nombre d'opérations, aller au secret des conditions opératoires, se mettre au fait de ce qui se secrète. Comment ça se passe dans le fait de faire, dans la fabrication même? Se mettre au fait de ce qui se secrète, et j'ajouterais, pour finir de rendre compte rapidement de ce que cherchaient les modernes en art, aller au revers, non pas de la technique en soi, si j'ose dire, mais de son emploi. Aller au revers des emplois de la technique, c'est-à-dire de sa disposition ou de son économie. Alors, disposition et économie, là aussi, pour moi, c'est un rappel. Dans les vieux textes des Pères de l'Église, ces mots se traduisent, l'un est grec, l'autre est latin, mais l'une des traductions de oikonomia dans les vieux textes grecs proposés par les pères de l'Église, c'est dispositio. Il y a un autre, c'est administration. Donc, et on voit ça encore dans les textes classiques, que ces mots fonctionnent comme des équivalents possibles. Hein. Donc faire l'économie d'une technique, si on remonte donc dans la longue histoire des mots, c'est disposer d'une certaine manière, de cette technique, et aussi disposer d'une certaine manière cette technique. Voilà. Pourquoi je dis, les modernes en art, ce qu'ils ont cherché, c'est aller au revers, non pas de la technique, mais de son emploi, c'est-à-dire, en fait, de sa disposition ou de son économie. Bon. Alors, je suppose que nous ne ferions pas mal si nous commentions, au sens que j'ai donné à ce verbe, je ne sais plus si c'était la dernière fois ou la fois d'avant, hein, la distinction entre commenter et expliquer. Hein, dans commentaire, il y a résonne le mot mens qui renvoie vers mémoire. Hein. Nous ne ferions pas mal si nous commentions plus que nous ne le faisons ces temps-ci, c'est-à-dire si nous faisions mémoire, plus que nous ne le faisons ces temps-ci, de l'existence de la modernité en art. Alors, pour revenir au sujet que j'annonçais, dans donc mon livre du commun, je suggérais à un moment donné, et je refais cette suggestion ce soir, je suggérais que le corps du peintre s'activant comme Paul Klee le laisse à penser dans ses écrits, opère en effet. Donc Klee parle beaucoup de ça dans ses écrits, dans son journal en particulier, hein, de la façon dont il travaille, voilà, et dont son corps travaille, je dirais, pour lui. Alors si je reprends ma formule de lancement de la soirée, à moindre intention. Voilà. Donc il faut lire ça, faisons mémoire de ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit que c'était leur travail, ces gens-là? Bon, alors, je vais voir et je suggère que le corps du peintre, s'activant comme Paul Klee le laisse à penser dans ses écrits, opère en effet, mais il opère singulièrement, ce corps-là opère comme il peut, et Klee le précise explicitement, il opère depuis une certaine absence, et évidemment, après les soirées que nous avons passées ensemble à méditer, je dirais depuis un certain vide d'idées. Que Klee, il y a plusieurs, pour y trouver plusieurs textes de Klee où Klee dit de ça, quoi. Il fait depuis une certaine absence ou un certain vide d'idées, et il insiste beaucoup là-dessus. Pour dire en substance, le problème, c'est quand j'ai une idée. Voilà. Et je fais mieux quand l'idée finit par arriver, et pas quand elle est au commencement. Donc je pourrais traduire ça en disant faire à moindre intention. Je précise aujourd'hui, je vais préciser ce soir, en reprenant un autre passage de mon travail antérieur. Cette fois, c'est dans « Art et industrie », mais dans la version rééditée de 2015, parce que c'est un passage qui n'était pas dans la première édition. Le corps opérant de Klee ne fait pas comme fait le peintre classique qui illustre une gravure que Dürer a réalisée en 1525 et qui me semble être une image dont je voudrais vous montrer le caractère, déterminant, pas simplement pour penser l'art, mais pour penser l'économie du travail en général. Alors, pour que tout ce discours ne soit pas abstrait, j'ai amené une reproduction que je vais demander à Adrien, s'il veut bien m'aider, à la rendre visible pour tout le monde. Alors, ici, je ne sais pas comment on peut faire pour... Tu disais, Cécile, quand on en parlait avant la séance, que peut-être il suffisait de dire que c'est le perspectographe de Dürer. Ouais,
sinon, sur l'ordinateur d'Élise, peut-être si Élise elle tourne son ordinateur. Ouais.
Alors, une seconde, parce qu'il faut qu'on nous donne... Non, je crois qu'il faut que tu me donnes le droit de partager l'écran. Je pense...
Ah oui, c'est compliqué.
Donner l'accès, définir comme présentateur. Voilà. Là, je suis présentateur et je peux partager l'écran. Je ne sais pas comment le mettre pour tout le monde.
Alors, moi, j'ai pas le contact avec ceux qui sont à distance. Est-ce que vous la voyez, l'image? On peut plus s'assier, on peut voir quand même.
Il y a plusieurs personnes qui sont en train de répondre, oui.
C'est bon. Bon. Alors, que montre cette gravure? Donc, si vous voulez que je la décrive, vous voyez donc elle est divisée en deux. À gauche, vous avez une scène qui n'est pas n'importe quelle scène. Alors, cette gravure avait été un élément d'une discussion publique entre Bruno Latour et moi-même à l'invitation de Christophe Leclerc, que je remercie d'avoir rendu la chose possible. Et Christophe avait, à la toute fin, puisqu'il savait que la tour l'avait commenté, que moi aussi je l'avais commenté, donc il nous avait mis à dire bah, « qu'est-ce que vous en dites l'un ou l'autre ?» Bon. Et la tour avait évidemment mis le public avec lui en commentant la scène, hein, le choix de cette femme dans une position que je ne caractériserai pas. Rien à dire là-dessus, bien enfin, non, c'est mal dit. Beaucoup de choses seraient à dire là-dessus, mais c'est pas sur ce point que je vais centrer l'analyse, tout en étant conscient qu'en effet, il y aurait des choses à dire là-dessus. L'image est donc en deux parties. Donc à gauche, vous avez une scène qui mériterait d'être commentée, mais que je ne vais pas commenter, et à droite, vous avez un opérateur qui est en fait, on pourrait dire, si on est dans l'histoire de l'art au sens des beaux-arts, on va dire c'est l'artiste. Et moi, je pense que cette gravure a une fonction beaucoup plus globale de donner une pensée de la technique en général, hein, du concepteur, si vous voulez, en général, du designer, si on prend le langage d'aujourd'hui, celui qui a le disegno, si on prend le langage d'autrefois, avec lui, en général, que ce disegno opère dans le champ de ce que nous appelons aujourd'hui l'art, mais qui, à l'époque, a probablement une signification différente et beaucoup plus étendue. Et donc, vous voyez que ce, appelons-le dessinateur, cet opérateur, donc il a devant lui un petit appareil qui s'appelle, un petit dispositif plutôt, pardon, qui s'appelle un perspectographe, qui sera appelé un perspectographe, et qui lui permet de réaliser une parfaite représentation de la scène, sans avoir à se poser de questions particulières, et en particulier sans avoir à connaître le traité de la perspective de Alberti avec sa théorisation compliquée, pas besoin de faire de la géométrie descriptive dont on commençait à avoir les théorèmes à cette époque-là, à ma connaissance en tout cas, et donc c'est un truc qui lui permet d'avoir un savoir-faire et de mettre au monde un dessin parfait, une reproduction parfaite de la scène. Ce qui m'intéresse, c'est que l'opérateur regarde pas sa feuille, on dirait aujourd'hui, le lieu où il travaille, où les choses se font. Il regarde la scène qu'il a en vue, en perspective, littéralement. Et la technique qui est disposée pour lui permet à sa main de ne pas être créative au sens moderne du mot, au sens actuel du mot, c'est-à-dire en fait... Il va travailler sur des petits carrés de telle sorte que sa main va pouvoir exécuter strictement la scène de façon disciplinée par rapport au visible ou à la vue. On pourrait dire qu'on a affaire à un schéma qui indique une sorte de ligne de passage stricte entre l'esprit, les yeux et la main qui finalement exécute. Voilà. Il ne peut pas y avoir de trait de travers. La technique est une façon de discipliner le tracé. Hein, alors, dans le commentaire que je fais par ailleurs, que j'avais rappelé dans la soirée avec la tour, je pense qu'il y a toute une série de choses que la gravure laisse impensées. Enfin, en tout cas, que la façon dont on la regarde habituellement... ne prend pas suffisamment en considération, qui est, par exemple, est-ce que, mettons, le crayon que le dessinateur a en main, il peut être plus ou moins sec, plus ou moins dur, plus ou moins gras, et donc il y a des éléments tactiles qui, malgré tout, pourraient finalement venir se faire plus ou moins remarquer dans la perception finale de la chose. Mais ce qui m'intéresse pour ce soir, c'est donc de souligner le fait que nous avons affaire là, vous avez là sous les yeux, une opération, la description au fond d'une opération parfaitement disciplinée, inscrite, elle est disciplinée par la disposition même du dispositif. Vous avez affaire à une opération parfaitement disciplinée qui est inscrite, nous pourrions dire, en reprenant le langage fréquemment utilisé dans ce séminaire, opération parfaitement disciplinée, inscrite dans une logique de subjectivation hautement élaborée, et pouvant, pour cette raison, se mener sans passion. Alors, j'ai choisi ce mot de passion, je l'ai dit la dernière fois, parce que c'est un mot auquel me font penser les textes de Rousseau. Et je précise en conséquence, puisque j'avais un peu sauté ce passage la dernière fois, que faire passionnément, ce n'est pas être passif dans ce qui se fait, quand bien même le sujet qui fait n'a pas à sa disposition toute la condition de son faire. Alors que là, au fond, toute la condition du faire, vous l'avez sous les yeux. L'opération est parfaitement disciplinée. La main du dessinateur dans la gravure de Dürer est assignée et elle n'a pratiquement pas de marge de manœuvre. Je pense que si Klee avait refait la gravure, il n'aurait pas mis toute la partie gauche de l'image. Et du coup, il aurait fait sauter le perspectographe lui-même. C'est-à-dire que Klee, il pensait le dessiner, ER, le fait de dessiner, comme étant quelque chose dans lequel, d'abord, ça commence par la main, c'est-à-dire c'est l'opération de la main qui avance un trait sur la feuille ou le support, et l'œil voit après ce que la main a fait, et peut-être il se crée une espèce d'échange, de dialectique, pourquoi pas, entre le regard qui voit ce que la main a avancé pour lui. Et il n'y a pas la scène, il n'y a pas le modèle. Dans la gravure de Dürer, c'est un peu l'inverse. Il y a la scène, il y a le modèle, et il y a un œil qui domine littéralement la main. Donc, si Klee avait refait la gravure, je crois qu'il n'aurait pas mis toute la partie gauche de l'image, la scène préalablement montée, et l'ordre opératoire serait inversé. Au lieu que la main suive la vue grâce au dispositif du perspectographe, elle avancerait et même elle aventurerait un tracé dont les yeux pourraient ensuite estimer l'allure. Il en résulterait, je crois, ceci, que l'opération serait non pas une exécution, mais une gestation. Voilà. Le mot-clé pour ce soir, et au fond, pour conclure, au moins provisoirement, le séminaire. Donc, la gravure de Dürer est un bel exemple d'exécution qui place le travail, le fait de faire, dans la situation d'une exécution. Et je pense que Klee ne propose, dans ses textes, dans ses leçons Bauhaus et dans sa façon de faire des cas, non pas d'exécution, mais de gestation. Alors, c'est le premier cas que je rappelle, hein, qui est à la portée commune. C'est peut-être plus... Finalement, c'est peut-être plus commun d'opérer en suivant le mode de la gestation tel que je le comprends chez Paul Klee que d'opérer un dessin en perspective. Il y a quand même un lourd dispositif. Hein. Il faut monter la scène, faire venir la femme sur scène, le perspectographe, etc. Et curieusement, ce qui semble pour nous du grand art, c'est pas la gestation à la Klee, c'est l'opération disposée, économisée à la Dürer. Donc premier cas que je mets dans la méditation de ce soir. Le deuxième grand cas, j'ai dit que c'était des petits cas, je veux dire le deuxième petit cas dont je voudrais faire grand cas, concernait dans du commun, dans mon livre du commun, l'opération photographique. Et je commentais l'opération photographique en faisant droit de nouveau à cette notion de gestation. De même que le corps du peintre Klee n'est pas en position de moyen intermédiaire. Alors je dis ça pour rappeler le début du séminaire, moyen, où j'essayais de discuter certains textes d'Agamben. Moyen, ça n'est pas une notion, loin s'en faut, que réfute Agamben. Et d'ailleurs, je le rappelle, c'est encore ce qu'est chez lui le corps du chat, vous vous souvenez peut-être, qui joue, et dont je parlais tout au début de ce séminaire, hein, qui a son corps comme moyen pour... soit joué, soit chassé. Bon. Donc, bref, laissons tomber ce rappel. Le corps du peintre Klee n'est pas en position de moyen intermédiaire, il est en position de matrice. Eh bien, de même, je pense que les caméras sont des appareils matriciels. Ce ne sont pas des instruments, ce sont des appareils matriciels. Certes, une vue qui se pose elle-même comme visée et qui se veut visante, alors ça, la vue qui se pose comme visée et qui se veut visante, c'est celle du dessinateur dans la gravure de Paul Klee. Hein. Alors, une vue qui se veut visée, qui se pose comme visée et qui se veut visante, elle peut toujours opérer avec l'appareil photographique. C'est-à-dire qu'on peut photographier en inscrivant son opération dans l'ordonnancement type gravure de Dürer. Mais on peut aussi penser la caméra ou l'appareil photographique comme un appareil matriciel et faire droit, par conséquent, à ce qui se passe en et depuis l'appareil lui-même. L'essentiel, dans ce cas, c'est ce qui se passe, où la discussion est là. Est-ce que l'essentiel, on le met dans ce qui se passe en et depuis l'appareil, ou bien est-ce qu'on le met dans une vue qui se veut visante et qui va passer par l'appareil pour se réaliser. Hein, le dessinateur de Dürer, il réalise une visée. Voilà. Alors évidemment, avec l'appareil photographique, on peut aussi viser. Mais on peut aussi se rapporter à lui de telle sorte que, dans ce rapport, on fait droit à ce qui se passe en et depuis l'appareil lui-même, reconnaissant par là sa portée matricielle. C'est bien au sein de l'appareil et depuis lui que, en fait, la photographie se fait. C'est lui, l'appareil, qui, en fonction de ses capacités, une certaine sensibilité à la lumière, une certaine profondeur de champ, par exemple, c'est bien lui, l'appareil, en fait, qui assure, alors j'ai mis sur mes notes, la parturition de l'image, l'accouchement. Alors là, on pourrait revenir sur le sourire ou le rire de Bruno Latour sur l'image, hein, parce que bon, peut-être que la femme de Dürer, elle est dans la position d'une parturiente, sauf que ce qui accouche de l'image, ce n'est pas elle, mais le dessinateur qui la prend en vue, littéralement. Alors, il y a une autre façon de considérer toutes ces façons de faire, c'est-à-dire dire que ce qui assure la parturition de l'image, hein, c'est l'appareil lui-même et non pas le photographe. Voilà. Au fond, l'appareil photo pensé comme matrice opératoire occupe en quelque sorte le lieu du corps du peintre Klee. Et j'avais fait, je crois, un chapitre, je ne me rappelle plus si c'est dans Du commun ou un autre, hein, le corps comme appareil. C'est-à-dire, finalement, on peut penser... l'opération du peintre Paul Klee est une façon d'être dont Klee pense l'opération de son propre corps lorsqu'il peint, qui n'est pas donc une opération idéale, hein, pas d'abord une opération idéale, la façon dont il pense l'opération de son propre corps le rend contemporain de l'opération photographique, bien qu'il ne fasse pas du tout, regardez à quoi ça ressemble, les tableaux de Paul Klee, il ne fasse pas du tout des photographies. Mais dans la mesure où il pense son corps comme un appareil, voilà. Bon. Donc, voilà les deux cas auxquels sur lesquels je voulais attirer votre attention pour faire entendre les méditations qui suivent. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de donner à l'opération impliquée dans les deux cas que je viens de dire, le corps de Klee et l'appareil photo, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de donner à cette opération telle qu'impliquée dans ces deux cas le statut d'une solution générale. Nos vies, évidemment, n'attendent pas que nous réservions nos capacités d'opérer à la fabrication de peintures et de photographies, en quelque sorte désintentionnées. C'est-à-dire, je prends des cas et on va dire « Et alors ?» Il n'y a aucune urgence dans ces cas. Ce sont des cas, certes, à la portée, enfin, etc. Mais nos vies n'attendent pas que nous soyons dessinateurs et photographes. faudrait, cher ami, on pourrait me dire, être un peu quand même, peser un peu les conséquences et comprendre que les enjeux sont d'une toute autre nature. Certes, nos vies n'attendent pas que nous réservions nos capacités d'opérer à la fabrication de peintures et de photographies, fussent-elles désintentionnées. Mais au-delà, cependant, je suis tout de même en train de chercher des cas de passibilité et de patience où je suis en train de vous suggérer de chercher autant que vous pourrez d'autres cas de passibilité et de patience dont l'importance tient ou tiendrait à ceci, qu'ils font droit à quelque chose que l'économie la plus socialisée minimise, voire refoule. Ce quelque chose que l'économie la plus socialisée minimise, voire refoule, et dont peut-être nous ne ferions pas mal de chercher d'autres cas, si vous voulez, exemplaires, ce quelque chose que l'économie la plus socialisée minimise, voire refoule, c'est une façon d'être dans le temps, dont le nom n'est pas visé, mais ni, pardon, définition d'objectif, mais gestation. Réfléchissons donc, si vous voulez, à ce mot. La mise en gestation, je la définirais comme l'ouverture d'un temps. Hein, j'avais parlé, vous vous souvenez, je crois, je sais pas si c'était la dernière fois, la différence entre chronologie, chronos et kairos. Hein, et bon, il faut changer là, peut-être, ou enfin penser que nous pouvons entretenir avec le temps une relation qui n'est pas nécessairement chronologique. Voilà. Ben, c'est la même chose que je redis ce soir dans un autre langage en parlant de gestation. La mise en gestation, comme le photographe qui confie à l'appareil le fait de faire la photo pour lui. Comme le dessinateur qui se confie à son propre corps dessinant. Voilà. La mise en gestation est l'ouverture d'un temps qui n'est pas de part en part projetation, comme on a pu dire, mais qui est d'abord matricielle. Matrice veut dire pour moi portée, non pas à la manière d'un étai qui soutient le poids d'une construction dans un rapport de force, hein, puisqu'on peut dire un étai, c'est quelque chose qui... Vous avez une force, hein, comme, je ne sais pas, et vous allez étayer, faire contrepoids. Hein, donc, à ce moment-là... vous regardez les choses, vous les analysez, vous les estimez dans un rapport de force et vous avez besoin d'un étai, d'une contre-portée, si vous voulez, hein, qui va soutenir une portée, qui va soutenir un soutien. Donc, matrice veut dire portée, mais non pas dans ce sens-là, à la manière d'un étai qui soutient le poids d'une construction dans un rapport de force, ni à la manière d'un tir, comme on dit, la portée d'un tir. Hein, cette carabine a une portée de X mètres. Bon. Donc je ne parle pas de ça quand je parle de portée. Je ne parle pas de la portée d'un tir qui atteint, ou le cas échéant d'ailleurs rate, une cible, en tout cas la vise. Non, matrice veut dire portée au sens de fécondité. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a de la fécondité ? Évidemment, je vais préciser, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la fécondité dans une opération technique ? Ceci au moins que, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la fécondité et qu'est-ce qu'il y a cette fécondité que j'essaye d'étudier, ceci au moins que si une matrice est nourricière, c'est, pensez la notion même de matrice, ça suppose de penser quelque chose qui est nourricier, mais qui est aussi accueillant et récepteur. Pour que la matrice soit matricielle, il faut qu'elle soit accueillante, réceptrice et nourricière. Donc ces trois valeurs, si vous voulez, de la matrice. Si les opérateurs techniques peuvent être matriciels, ce qui est tout à, il me semble que c'est très différent que d'être, comme dans la gravure de Dürer, des éléments inscrits dans une logique de visée. Si jamais nous pouvions avoir des opérateurs techniques matriciels, ça voudrait dire que nous opérons depuis, dans, avec une technique à la fois accueillante, réceptrice et nourricière, matrice. L'affaire de la matrice, pour reprendre cette fois une distinction trouvée chez Paul et sur laquelle je pensais conclure le séminaire, et ça sera pour l'année prochaine, hein, une distinction trouvée dans un texte de Paul que je retraduirais. L'affaire de la matrice, ça n'est pas le vouloir, totelein dans le texte de Paul, mais comme dans une grossesse consécutive à la rencontre occasionnelle de deux cellules qui s'accueillent l'une l'autre, c'est ça une matrice, hein. Pour qu'il y ait une matrice, il faut qu'il y ait une rencontre occasionnelle de deux cellules qui s'accueillent l'une l'autre, et cet accueil, cette réception réciproque, si j'ose dire, dans la matrice, elle est menée à terme. Alors le verbe grec, c'est to katergazestai, et justement dans les traductions que j'ai eues entre les mains, ou plutôt sous les yeux, bon, ergazestai, vous avez ergon, hein, dans le vieux grec, travail, etc. Mais on laisse tomber la préposition, le kata. Le kata erga, qui veut dire... alors, je pense que ça a l'air d'un, ça a l'air de deux fois rien, pinailler sur un vieux texte grec, on a autre chose à faire aujourd'hui, etc. Mais peut-être que justement, ce que on pourrait appeler, rappelez-vous de la première séance, l'Occident, c'est une manière de penser qui s'est constituée en laissant tomber le sens de la préposition. Hein, ergazestai, travailler, mais kata. Voilà. On a laissé, il y a quelque chose qui n'est pas traduit. Quand on passe dans les traductions de ce vieux texte, ça tombe, voilà. Ben c'est peut-être un problème en réalité, hein, parce que du coup nous avons peut-être perdu de vue toute une possibilité d'opérer matriciellement, si j'ose dire, et du coup inscrit le travail dans une logique de visée plutôt que, encore une fois, dans une logique que j'essaye d'appeler ce soir de gestation matricielle. Alors, kata ergon, kata ergazestai, pourrait dire mener à terme. Hein, j'essaye de jouer sur les métaphores, l'accouchement à terme, enfin, etc. Mener à terme, une grossesse, par exemple. Mener à terme une puissance opératoire. C'est peut-être pas tout à fait la même chose que... lui faire quelque chose, par exemple. Hein, voilà. Mener à terme une puissance opératoire. Voilà. Et bien ça, ces valeurs-là, que je pense qu'il faudrait aller rechercher, ou constater qu'elles étaient présentes dans un certain nombre de vieux textes, et que nous ne les avons pas traduites depuis que nous sommes des Occidentaux, pour le dire rapidement. Cette valeur-là, du mener à terme une puissance opératoire, c'est... j'avance d'un pas dans l'analyse, hein. C'est ce qu'exclut, me semble-t-il, cette sorte de capacité technique qui est une arme. Voilà. J'ai déjà un peu parlé de ça, je crois, dans l'une ou l'autre des soirées. Hein. Au fond, une arme, c'est un objet technique, c'est une capacité opératoire qu'il vaut mieux ne pas mener à terme. Parce que la mener à terme de la capacité opératoire d'une arme, c'est évidemment destructeur. Hein. La matrice, c'est tout le contraire. Voilà. Ce que j'appelle matrice, ce que j'essaye de faire penser sous le nom de matrice, c'est tout le contraire. Donc, le mener à terme la puissance opératoire d'une matrice, c'est ce qu'exclut cette sorte de capacité technique qu'est une arme. Peut-être que la situation de notre monde tient pour une grande part à ceci, que notre monde, ce que nous pouvons appeler notre monde, avec beaucoup de guillemets sans doute à ce nôtre, s'est engagé dans une pratique dissuasive de la technique, comme l'arme. Hein. Peut-être la situation de notre monde tient-elle pour une grande part au fait qu'il est engagé, de fait, dans une pratique dissuasive de la technique. Alors je vais aventurer quelques propositions ce soir. Je ne suis pas complètement sûr de tout ce que je vais vous dire, mais on est là pour ça, pour réfléchir. La technique, pour notre monde, est probablement comme une arme dont il faut, pour cette raison au fond que c'est une arme, hein, qu'est-ce que c'est que la technique ? C'est ce qui arme la vie des vivants que nous sommes. On peut en dire une chose comme ça. C'est des armes dont, sans lesquelles nous ne pourrions pas peut-être vivre, en tout cas comme nous vivons. Donc, peut-être l'Occident pense-t-il la technique comme une arme dont il lui faut par conséquent, puisque c'est une arme, contrôler la prolifération, aussi bien évidemment que la mise en œuvre. Il en est ainsi, me semble-t-il, en raison d'une hypothèse qui se refuse à admettre l'humain comme un animal essentiellement technicien, c'est-à-dire un animal qui réalise sa nature dans la technique. En fait, je vais dire quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire que je pense que le monde dans lequel il y a apparemment un tel déploiement de la technique autour de nous, en réalité, est un monde qui, quelque part, se refuse à admettre le caractère essentiellement technicien de l'humanité, c'est-à-dire le fait que cet animal se réalise dans les deux sens possibles de ce mot pour moi, dans la technique. La technique est au contraire, dans le monde occidental, pour parler vite, admise comme une arme pour vivre, et elle est donc ainsi, peu ou prou, considérée comme dangereuse en son principe. Dans ces conditions, si au fond du fond, nous pensons la technique comme dangereuse en son principe, dans ces conditions, en effet, comment autoriserions-nous sa libération ? Si la technique est dangereuse en son principe, si nous pensons ça, alors en effet, il est cohérent que nous pensions qu'il vaut mieux que la technique ne soit pas libérée. Voilà. Et du coup, nous nous autorisons à la tenir en main et à dissuader les humains d'être, je ne sais pas comment dire ça, véritablement, profondément techniciens. Hein. Il vaut mieux que l'humanité ne soit pas complètement technicienne, si la technique est une arme. Si elle est matricielle, c'est peut-être bien différent. Voilà. Donc, peut-être que nous pensons ça profondément en Occident, qu'au fond, la technique est dangereuse parce que c'est une arme pour vivre, et que par conséquent, il vaut mieux ne pas autoriser sa libération. Pour nous qui vivons sous ce modèle, pour la plupart d'entre nous, pour nous qui vivons sous ce modèle, il ne peut en résulter qu'une privation. Au lieu d'être dispersé et disséminé, la puissance technique est dans les mains de ceux qui savent ou prétendent savoir jouer avec le feu. Alors, jeu de mots, jouer avec le feu, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et bon, je vais lâcher le mot parce que je connais mes notes, hein, je les ai écrites avant de venir. Donc dans quelques secondes, je vais faire allusion à Prométhée, hein, celui qui a donné la technique aux hommes et qui l'a fait au fond, en jouant avec le feu. Hein, bon. Donc, au lieu d'être dispersé et disséminé, la puissance technique dans l'Occident, disons, est dans les mains de ceux qui savent ou prétendent savoir jouer avec le feu. Ainsi est-elle à la fois réservée et concentrée, et par conséquent incomplètement mise en œuvre. Hein. Dans le kata ergat zesai, le kata n'est pas là. Voilà, ça c'est paradoxal. C'est-à-dire, au fond, je suis en train de dire, au fond, nous sommes dans un monde qui a l'air d'être extrêmement technique et qui, en réalité, ne mène pas à terme quelque chose qui, peut-être, est de l'ordre, je ne sais pas comment dire ça, radical, c'est pas le bon mot, mais essentiel de la technique. Donc, nous sommes dans un monde qui, au fond, réserve, concentre et, par conséquent, met incomplètement en œuvre la technique, ou la met en œuvre selon un mode de sa puissance qui ne l'autorise et ne peut l'autoriser que partiellement. Ce n'est généralement pas avec toute la capacité de telle ou telle technique que nous opérons. Ce n'est généralement pas avec toute la capacité de telle ou telle technique que nous opérons. Alors je vais en prendre un exemple simple, l'un des exemples simples de tout à l'heure, des petits cas de tout à l'heure, qui ne suffit pas évidemment à nous faire vivre, mais non. Néanmoins, la plupart des opérations photographiques que nous menons, ou cinématographiques, nous les menons selon un mode de l'opération technique qui s'appelle photographie ou cinéma. Voilà. Et il y a des modes opératoires. On peut faire avec des caméras ou des appareils d'enregistrement selon d'autres modes que ceux qui sont mis en œuvre de façon dominante et qui sont des modes dans lesquels il y a visée, idée que tout cet appareillage ne peut pas être mis entre les mains de tout le monde, qu'il ne faut pas le disséminer, etc. Tout le monde ne sait pas viser comme il faut. Bon. Et du coup, il y a des modes opératoires qui ne sont pas mis en œuvre. Voilà, c'est ça que je veux dire, hein, en disant, nous ne menons pas à terme toute la capacité technique, par exemple, des appareils de fabrication d'images qui s'appellent caméra photographique ou cinématographique. Je peux dire cette chose selon un autre langage. Au fond, je dis la même chose selon un autre langage lorsque je dis les inventions techniques, c'est-à-dire ce qui se trouve et que nous trouvons au long de nos existences. Nous sommes des animaux techniciens, c'est-à-dire nous inventons sans cesse. Les inventions techniques qui se trouvent et que nous trouvons au long de nos existences sont disposées. Et de ces inventions, il y a disposition avant qu'elles soient découvertes. Hein, je ne sais pas s'il faut que je rappelle cette distinction que je fais entre le temps des inventions et le temps des découvertes. Et je tiens que les inventions sont mises en jeu dans le monde. Elles sont disposées, elles sont économisées avant d'être véritablement découvertes, et même si elles ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que nous mettons en œuvre des techniques prématurément, hein, avant que le terme de leur découverte soit présenté. Voilà. Bon, il faudrait certainement développer et discuter ce point. Je pense, par ailleurs, dans mon travail, que les techniques sont, au fond, économisées, disposées, prématurément, alors même que leur enfantement, ou pour le dire dans un langage simondonien, leur individuation n'est pas achevée. Et je pense que l'économie dominante des techniques se glisse, si j'ose dire, dans ce temps qui sépare le moment d'une invention, qui est inouenire en latin, qui se trouve là, ça se trouve, bon, et le temps de la découverte. Donc la technique n'est pas au bout de sa propre découverte, de sa propre recherche, de la recherche de ses propres capacités, que déjà elle est mise en œuvre, c'est-à-dire employée, c'est-à-dire économisée, disposée, etc., etc. Donc je pense, puisque je vais essayer quand même de terminer sur une proposition un peu, je sais pas comment dire, un peu d'optimisme dans la pensée, si on peut. Bon. Sans doute faudrait-il, voilà ce que je pense, que ça serait mieux si nos opérations dans le monde étaient... sans doute ça serait mieux pour que nos opérations dans le monde soient davantage justifiées. Sans doute vaudrait-il mieux que nous démultiplions la patience de l'attitude matricielle. La patience. Si on remonte au latin, c'est des mots passion, passible, etc., qui ont des relations. Je pense que, au fond, nous n'irions pas plus mal si nous étions pas si pressés de mettre en œuvre des inventions, par exemple, et si nous démultiplions la patience de l'attitude matricielle qui est celle, dans son cas, pour son petit cas, d'un Paul Klee ou de tel ou tel photographe qui, non pas impose ses visées à son appareil, mais travaille avec son appareil qu'il considère donc comme une matrice opératoire. Mais cela, démultiplier la patience de l'attitude matricielle, d'après tout ce que je viens de dire, cela ne saurait se faire à volonté. Ce qui reste seulement possible dans le cadre de pensée et de référence qui est le mien dans tout ce séminaire, c'est, en procédant depuis une conversion, depuis une métanoïa, c'est-à-dire une pensée de second temps, ce qui reste possible sûrement pour nous et qu'on va faire dans les quelques minutes qui nous restent, c'est retourner l'analyse dominante. L'économie majeure du faire anticipe. Alors, vous l'avez dans la gravure de Dürer. Hein. Toute l'image à venir est anticipée dans la scène et dans le dispositif qui garantit que ce qui est anticipé sera bien finalement dans le monde. L'économie majeure du faire anticipe et pour cette raison même, au fond, je crois, elle exclut la portée matricielle et le temps de latence qu'implique et qu'est d'ailleurs cette portée matricielle, ce que je viens à l'instant d'appeler sa patience. Il y va en tout cela d'une organisation chronologique, d'une conception stratégique du temps, qui est la conception majeure de l'économie, de la disposition des techniques. Il y va d'une organisation chronologique, d'une conception stratégique du temps qui implique la mise au point, comme dans la gravure de Dürer, de dispositifs de prématuration. Ce qui intéresse l'économie majeure du faire, ce qui intéresse, ce n'est pas ce qu'il y a, en l'occurrence, dans les cas que je présentais ce soir, une main en train de faire grossir un dessin et de participer à l'accouchement à terme d'une œuvre nouvelle. Ce qui intéresse, ce n'est pas ce qu'il y a, le présent de l'opération du faire, dans l'économie, le fait de faire, le moment du faire, le présent du faire, dans les deux sens du mot présent. Le présent au sens passé, présent, futur, donc de dimension temporelle, puis le présent, le cadeau. Hein. Le présent du faire, c'est quelque chose que l'économie majeure ne prend pas en considération. C'est ça que j'essaye de dire. Ben, ça y est, je l'ai dit, au fond. Bon. Ce qui intéresse cette économie, ce n'est pas ce qu'il y a, par exemple, la main en train de faire grossir un dessin et de participer à l'accouchement à terme d'une nouvelle. Ce qui intéresse l'économie majeure du faire, c'est ce qu'il y aura et dont la scène et les traits sont inscrits déjà dans une prévision, dans une idée, dans un voir d'avance. Donc, il n'y a pas de présent, d'une certaine manière. Il y a une idée qui anticipe, qui a construit la scène, et une disposition de la technique qui fait que ce qu'il y aura, on l'a déjà en vue. Donc je reprends ma phrase parce que je vais ouvrir une note de bas de page qui va apparemment disperser l'attention, mais après je reviendrai sur le sujet. Ce qui intéresse l'économie majeure du faire, ce n'est pas ce qu'il y a, mais ce qu'il y aura et dont la scène et les traits sont inscrits dans une prévision, dans une idée, dans un voir d'avance. Alors, la note de bas de page, donc c'est une parenthèse. Je joue à l'instant, dans la phrase que je viens de relire, sur l'étymologie du mot « idée », qui renvoie au verbe grec « idein », « voir », dont le parfait en grec, alors c'est un temps du passé, hein, « oida » se traduit par « je sais ». Alors c'est intéressant de voir comment les Grecs, Platon par exemple, pensaient en l'occurrence « je sais parce que j'ai vu ». Ou plutôt, je sais en tant que j'ai vu, oida, j'ai vu, je sais, en tant que j'ai une vue. Alors on peut dire, c'est le fondement de l'idéalisme, hein, de l'idée d'avance. J'ai vu, et donc je sais. Bon. Idée renvoie étymologiquement à ce verbe étrange de la vieille langue grecque, hein, qui a, entre le présent et le parfait, une signification un peu différente. Le parfait est une sorte de présent, je sais, j'ai vu. La compréhension de la lancée platonicienne de la philosophie ne saurait, à mon sens, alors c'est pour ça que c'est une note de bas de page, hein, c'est vraiment une parenthèse, revenir à Platon, c'est pas le sujet du jour, bon. Mais bon, profitons-en quand même. La compréhension de la lancée platonicienne de la philosophie ne saurait, je crois, se dispenser de comprendre la possibilité de ce jeu du langage, idein oida, dans la vieille langue grecque. Mais ce qui rend cette lancée philosophique, la lancée platonicienne, elle est philosophique, si elle est philosophique, c'est aussi parce qu'à l'occasion, dans des textes de Platon que peut-être on lit moins que d'autres, elle sait problématiser sa propre conception du savoir idéal et faire place à l'occasion, donc on trouve ça dans les textes de Platon, à une autre expérience du voir, expérience portée, elle, dans la langue même de Platon, donc à l'origine de la philosophie, par un autre verbe qui n'est pas idein, mais blepein, verbe qu'il m'est arrivé de traduire par songer, une façon de voir sans focaliser. Il y avait trois verbes hein, dans la grecque pour voir, il y a idein, scopein et blepein. Et souvent, enfin, en tout cas moi, à ma génération, quand on me faisait lire ces textes quand j'étais étudiant, ou bien après, quand je lisais des commentaires, je pense, alors bon, c'est tout un travail que j'ai fait sur Platon, qui est dans mes notes. Donc il y a quelques textes de Platon que on met dans la traduction française, on met voir, sauf que c'est pas idein, sauf que c'est pas scopein, c'est pas une vue focalisée, blepein, une vue comme si un peu je vais commenter. Hein, ce blépeg. Donc ça m'est arrivé de proposer de traduire par songer. Je dirais aujourd'hui qu'il y va avec ce blépeg d'une vue de côté que je suis, aujourd'hui que je suis vieux, que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, je suis assez disposé à comprendre dorénavant cette vue de côté, ce blépeg, ce voir de côté comme une sorte de regard distrait. Donc vous me voyez venir avec mon côté benjaminien. En tout cas, comme un regard qui ne procède pas d'un seul point de vue, ni d'un point de vue fixé. Alors, c'est une note de bas de page, mais je reviens quand même à la gravure de Dürer. Je fais remarquer qu'il y a un seul point de vue. Hein, ça se voit d'un seul point de vue. Et à l'opération finale, le spectateur viendra prendre la place du dessinateur qui regarde la scène. Il y a un point de vue fixé. Le champ du voir qu'indique le verbe blepein et que Platon lui-même ne refuse pas d'utiliser à l'occasion, c'est pas ça. C'est une vue qui n'est pas assignée à un point de vue, à une perspective fixe. Si vous dites distrait, comme nous a appris à le penser Benjamin, c'est ça que vous dites. Hein, le distrait, c'est celui qui a le regard tiraillé. Voilà. Par côté. Bon. Donc, je dirais aujourd'hui que, déjà, dans quelques vieux textes, là aussi, pas assez traduits, peut-être, pour qui permettraient, si on les traduisait, de repenser, si j'ose dire, de revenir sur les sources occidentales, je suis prêt à traduire ça comme un regard, au fond, distrait, en tout cas, un regard qui ne procède pas d'un seul point de vue et d'un point de vue fixé. Alors, c'est l'immense travelling auquel s'abandonne le film d'Estrobuie trop tôt, trop tard, qui m'aura conduit à l'histoire, à ce genre de considération. J'avais fait un texte consacré à ce film, il y a longtemps, et je ne sais plus si je l'avais intitulé comme ça, en tout cas, il y avait dedans l'expression « songer le long d'un plan ». Alors c'est ça que je voulais dire, le blepein, c'est-à-dire que cet immense travelling d'Estrobe, je vais commenter. Il me semble que je ne peux voir ce travelling dans sa longueur, dans toute sa longueur, dans son incroyable longueur, sans le songer. C'est-à-dire, je ne peux voir ce travelling en le voyant continuellement de la même manière, avec le même regard fixe ou fixé, je ne peux le voir continuellement comme un tableau pour lequel ma place de spectateur serait constamment attentive au même degré et de la même manière. Enjeu, donc, dans ce long travelling de trop tôt, trop tard, le registre du Blepein et non de l'Idein. Non seulement je ne vois pas ce long plan travelling sans diverger moi-même dans mon regard, tellement c'est long, je ne le regarde pas constamment du même regard. Non seulement je ne vois pas ce long plan travelling sans diverger moi-même dans mon regard, mais lui-même ne peut avoir été prévu lui-même dans tous ses accidents, c'est-à-dire dans toute sa patience. Le travelling est trop long pour qu'il n'y ait pas d'accident dans l'image. Voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup. Alors c'est pareil, c'est un petit cas. C'est pas avec ça qu'on va vivre, me rétorquera-t-on. Quand même, pensons à ce genre de fait qui existe, dans lequel une technique n'est pas assignée à une perspective fixe, mais elle se développe avec patience de telle sorte que des accidents sont possibles dans son opération même et dans l'image qu'elle contribue à fabriquer. Voilà. Donc on a la possibilité de l'accident visuel est là en permanence. Et qui plus est, je répète, je ne peux pas voir ce travelling tellement il est long, constamment avec la même sorte d'attention, c'est-à-dire le regard fixe et fixé. Bon, fin de la note de bas de page. Je reviens au cours du propos. Donc, je disais que ce qui intéresse l'économie majeure, ce n'est pas ce qu'il y a, mais ce qu'il y aura, et dont la scène et les traits sont inscrits dans une prévision, dans une idée, dans un voir d'avance. C'est déjà conçu, et ce l'est d'un seul point de vue. L'économie majeure de l'image nous considère la technique avec laquelle elle va ou qu'elle va mettre en œuvre que d'un seul point de vue. Voilà. Pas de place dans cette affaire, donc, pour l'accident, qui est aussi bien l'offre, le présent du présent, et justement, la possibilité de l'acquidit, du verbe latin acquidit, verbe sans sujet identifié, c'est un verbe impersonnel, qu'on traduit par « il arrive quelque chose, on ne sait pas quoi encore », la possibilité de l'accident est soigneusement tenue à l'écart dans l'économie majeure du fer. Il ne peut rien arriver. Voilà. Ou il vaudrait mieux qu'il n'arrive rien, avec peut-être en arrière-fond l'idée que, justement, on est en train de mettre en œuvre des techniques dangereuses. Enfin, je ne reviens pas sur ce que j'ai essayé de vous dire il y a quelques minutes. Eh bien, dans le temps d'une gestation, c'est l'inverse. Qui se trouve dans le temps d'une gestation ignore les traits de ce qui va s'enfanter, et cependant, eh bien, dans la patience d'une opération. L'opération que je nomme généralement ici, alors c'est pas peut-être assez concret, il n'y a pas assez de cas, etc. Mais bon, cette opération qui est, j'oppose, si vous voulez, la visée et la gestation. Voilà, disons les choses comme ça. Bon. La gestation, l'opération patiente, qui fait place au présent et à l'accident, etc., etc. Cette opération, je peux la dire, prudente, au sens où la prudence, je ne dis pas précautionneuse, hein, je sais très bien ce que je suis en train de dire là. Je ne parle pas de précaution, mais de prudence. Donc cette opération, je la dirais prudente, au sens où la prudence consiste à faire en ne sachant pas ce qui peut arriver. Ou bien au sens où la prudence consiste à faire bien qu'il n'y ait pas de savoir quant à ce qui peut arriver. Alors je crois qu'il faut que je précise ce propos. Il ne s'agit pas, encore une fois, de jouer avec le feu, hein, c'est-à-dire, je viens de dire... On va faire l'opération prudente, matricielle, etc. L'opération prudente consiste à faire en ne sachant pas ce qui peut arriver, en faisant place au présent, etc. Ah oui, alors on fait place au présent, mais on ne sait pas ce qui peut arriver, l'accident est toujours possible, etc. Alors c'est bien, c'est heureux ou c'est pas heureux? Alors, ben vous jouez avec le feu, cher ami, en disant des choses pareilles. Donc je précise qu'il ne s'agit pas dans mon esprit, quand je dis une chose pareille, évidemment, de jouer avec le feu, au sens de cette expression, mettre en danger la vie d'autrui, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, il ne s'agit pas de jouer avec le feu. Il ne s'agit pas d'être, quand je dis des choses comme ça, en quelque sorte prométhéen, et de faire coûte que coûte. Non. Au contraire, il y va d'une place faite au doute. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons nous permettre de douter des techniques même avec lesquelles nous opérons? Ou bien est-ce que nous acceptons que ces techniques nous mettent dans le doute? Ou bien est-ce que ces techniques, nous les disposons de telle manière que nous ne pouvons pas douter quant à elles? Parce que ça serait trop grave ou trop dangereux. Voilà. Donc, dans ce que j'essaye d'appeler, comme je peux, gestation, matrice, etc., il y va dans mon esprit d'une place, de la possibilité de faire place au doute. Et la prudence dans l'Antiquité, c'était ça. C'était l'idée que nous étions, de toute façon, les humains, dans des situations douteuses. Il s'agissait de faire quand même, dans le doute, sans savoir, il s'agissait de faire quand même, quand bien même on ne savait pas, ou tout en sachant qu'on ne savait pas. Dans l'Antiquité grecque, la prudence n'était pas une qualité d'avance, mais une qualité qui se révélait après coup avoir été de fait au principe d'une opération. Donc, par exemple, quand on dit que Périclès était un homme prudent, c'est pas parce qu'il savait d'avance que ce qu'il allait faire allait être heureux. C'est parce qu'il se trouve, on ne l'aura su qu'après coup, que ce qu'a fait Périclès a rendu les Grecs heureux. Par conséquent, c'était un homme prudent. Voilà. Mais on ne peut pas dire d'avance que la prudence est une qualité qui serait en possession d'un sujet qui, du coup, pourrait être sûr de lui. La prudence, dans l'Antiquité, supposait le doute quant au fait de faire. Voilà. C'était une qualité qui se révélait après coup avoir été de fait, au principe d'une opération. Notre problème, le problème dans lequel l'Occident s'est pris, est précisément d'avoir pensé que le faire pouvait être, au moins par quelques-uns d'entre nous, su d'avance, et que, muni du savoir ad hoc, on pouvait exclure d'avance l'accident. Il en aura été d'une promesse, celle d'une fermeture à l'imprévu, tout juste admis comme risque, d'ailleurs de plus en plus calculé, et non pas admis comme cas potentiel de bonheur. Le risque pour nous, c'est pas qu'on soit heureux, c'est qu'on soit malheureux. C'est quand même étrange, comme finalement, comme façon de penser. Hein? Là, qu'on peut dire, mais ce qui peut arriver, l'accident, pourquoi serait-il nécessairement catastrophique? Voilà. Il est catastrophique, l'accident, que si les techniques telles qu'elles sont mises en œuvre sont des armes dangereuses. Voilà. Mais si vous pouvez retirer tout ça, c'est-à-dire si nous pouvons entretenir une conception, enfin je ne sais pas comment dire, une idée, bon, le mot problématique est près de tout ce que je viens de dire, mais peu importe, une idée de la technique comme n'étant pas dangereuse, l'accident, comme dans le travelling des Straub, peut être un grand moment de bonheur. Et qui nous restera en mémoire comme tel. Voilà. Donc je pense que le problème dans lequel l'Occident s'est pris est précisément d'avoir pensé que le faire pouvait être su d'avance par quelques-uns et que par là, il était possible de nous promettre, puisqu'il y aurait savoir d'avance, une technique, au fond, sans risque, ou en tout cas, si elle est risquée, que ce risque soit calculable, et que de toute façon, ce risque n'est pas pensé, a priori, s'il doit être éliminé comme un potentiel de bonheur. Nous nous sommes conduits, ou plutôt, peut-être devrais-je dire, nous avons été conduits. C'est selon le côté dans lequel on se trouve, par rapport à la disposition de la technique. Hein. Est-ce qu'on est dans ceux qui savent disposer ou est-ce qu'on est du côté de ceux qui sont disposés? Nous sommes conduits, ou peut-être vaudrait-il mieux dire nous avons été conduits, c'est selon, comme s'il ne pouvait rien arriver que nous ne puissions avoir mis en scène dans le théâtre du monde. Alors revenez à la gravure de Dürer, me semble capital de ce point de vue-là, il ne peut rien arriver qui n'ait été mis en scène, d'avance. Voilà. Il ne peut rien arriver, donc c'est une espèce de circuit fermé. Hein. Dès lors que la scène est construite, il ne peut plus rien arriver. Et l'opération technique doit être disciplinée de telle sorte que, en effet, il n'arrive rien pendant qu'elle opère. Eh bien, c'est peut-être ça, l'Occident. Une façon de se rapporter à l'opérer, au faire, tel qu'il ne peut rien arriver que nous ne puissions avoir mis en scène dans ce que donc j'appelle le théâtre du monde. Je veux dire dans un monde, au fond, conçu par nous comme un théâtre. Alors, je pensais à vous, évidemment, Élise, en écrivant ça, et je me suis dit, oulala, elle va me dire quand même, là, vous exagérez. Bon, vous êtes en train de faire une critique du théâtre. Oui et non. Oui. Mais bon, je pense que ça mériterait aussi de réfléchir à ça. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on appelle théâtre, c'est un appareil ou un dispositif? Est-ce que c'est une matrice ou un instrument? Vous voyez, en tout cas, dans la théâtralité, je crois que... joue aussi quelque chose qui est de l'ordre de la position d'un... Enfin, la gravure de Dürer, c'est la description d'un théâtre. Hein. C'est une scène qui va être... et vous avez le spectateur presque d'entrée de jeu, il est là. Voilà. Donc, peut-être nous pensons de façon majeure et dominante en Occident le monde comme une sorte de théâtre. Nous concevons comme une sorte de théâtre dans lequel, au fond, il ne peut rien arriver qui n'ait été mis en scène savamment. Voilà. Même les accidents que j'ai nommés aussi sur mes notes, les bévues de l'histoire. Nous avons pensé, enfin Aristote nous a fait penser, et alors nombreux sont ceux qui ont répété ça jusqu'à aujourd'hui. Même quand ils ne savent pas qu'ils sont en train de répéter Aristote. Nous avons pensé, au moins depuis Aristote, que même les accidents, les bévues de l'histoire, nous pouvions les mettre en scène au théâtre, précisément au sens, cette fois, plus précis du mot, et ce faisant, nous en guérir ou nous en purger, catharsis. Il n'y a rien que peut-être l'Occident ne pense qui ne soit, au fond, théâtralisé ou théâtralisable. Même les bévues de l'histoire, parce que c'est ça que dit Aristote. Hein. Il y a des hommes qui ont souffert, pathos, dit je ne sais plus quel chapitre de la poétique, et il faut représenter, faire monter sur scène les souffrances de telle sorte que, donc pas... justement, ce qui ne va pas, dit en substance Aristote, c'est ce qui n'est pas mis en théâtre. Voilà. Et si on réussit à théâtraliser, au fond... Il n'y a pas de souffrance qui résiste à leur purgation. Moi, on pourrait comprendre la catharsis de manière peut-être un peu excessive de cette manière. Eh bien, peut-être le temps est-il venu pour nous de penser à l'inverse et donc de traiter le faire non comme un projeté, non comme un spectacularisé, mais comme un accidenté. Et donc c'est ça ma question. Est-ce que nous vivons avec des techniques et surtout une économie des techniques telle que l'accidenté soit possible pour nous? Alors il est possible au cinéma, il est possible en photo, il est possible et ailleurs. Voilà, c'est la question. Voilà. Est-ce que nous entretenons pour nous, avec nous, des techniques telles que nous puissions... nous autoriser l'accidenté. Le fait de faire, le faire comme un accidenté. Qu'est-ce que ça serait que faire? C'est pas réaliser. Concrétiser un projet. Ça serait accidenter quelque chose. Et ça serait pas grave. Voilà. accidenté. Donc je mets le verbe avec ce que l'infinitif implique, de, au fond, de, à la fois, de, encore une fois, de, d'activité, puisque c'est un verbe à l'infinitif, et de passibilité, puisque l'accident, c'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas, dans tout le raisonnement que j'essaye de soutenir, prévu, anticipé, etc., etc. Alors, puisqu'est venu le moment de conclure le séminaire, pour ce soir, je ne serai pas trop long, comme ça, on pourra discuter à loisir. Telle sera ma réponse provisoire à la question initiale du séminaire, qu'est-ce que faire dans l'urgence ? Qu'est-ce que faire dans l'urgence ? Il s'agit de savoir si nous, je veux dire nous dans notre plus grand nombre, il s'agit, l'enjeu c'est ça, il me semble que l'urgence dans laquelle nous sommes par hypothèse a pour enjeu ceci, que je vais essayer de vous dire comme je peux, il s'agit de savoir si nous dans notre plus grand nombre, donc ça ne veut pas dire tous, hein, si nous, dans notre plus grand nombre, nous pouvons accidenter ce qui, autour de nous, est supposé être pour nous. Je vous la refais, cette phrase-là. Il s'agit, c'est ça l'enjeu pour moi, il s'agit de savoir si nous, dans notre plus grand nombre, nous pouvons accidenter ce qui, autour de nous, est supposé être pour nous. Hein. Bon. Ça, je n'ai pas mis sur mes notes, mais je commente, si vous voulez, peut-être en étant un peu simpliste, mais enfin, ce qui est supposé être pour nous, autour de nous, ce sont tous les objets que nous offre l'économie. Productiviste, appelez-la comme vous voudrez. Il nous est présenté, et on nous dit que c'est pour nous, une foultitude d'objets. Voilà. Ces objets... Commençons par là, la discussion concrète. Pouvons-nous les accidenter, c'est-à-dire y faire quelque chose, leur faire quelque chose, ou faire avec eux quelque chose ? Où est-ce que nous sommes au fond, ou est-ce que nous ne sommes pas au fond par rapport à ces objets, dans la position du spectateur de leur théâtre, organisé sans nous, ou sans le plus grand nombre d'entre nous ? Donc c'est ça que veut dire ma phrase, c'est ça l'enjeu. Pouvons-nous accidenter ce qui, autour de nous, est supposé être pour nous ? Plus exactement encore, il s'agit, c'est ça l'enjeu, me semble-t-il, de savoir si le pouvoir accidenté nous est permis. Alors, nous, j'avais commencé le séminaire en disant que ce mot était ambigu. Hein, c'est jamais nous tous, voilà. Le plus grand nombre d'entre nous. Hein. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui peuvent accidenter. Voilà. Mais peut-être pas assez. Et peut-être c'est un problème. Peut-être qu'on peut dire les choses un peu différemment. Que le pouvoir accidenté n'est pas permis à nous tous. Le pouvoir accidenté n'est peut-être même pas permis au plus grand nombre d'entre nous. Il s'agit donc de savoir si le pouvoir accidenté nous est permis, si nous nous l'autorisons, parce que après tout, peut-être que nous ne nous autorisons pas à faire nous-mêmes, nous dans notre plus grand nombre, hein, nous ne nous autorisons pas à faire, ou bien, autre hypothèse, nous ne sommes pas autorisés à faire. C'est-à-dire que sont menés auprès de nous des objets pour lesquels il nous est interdit d'y faire quelque chose ou de faire quelque chose avec eux. Comme par exemple, bon, c'est très simple, c'est une espèce de catastrophe pour moi, des objets indémontables, comme ces deux ordinateurs que j'ai sous les yeux, hein, qu'on ne peut pas les ouvrir. Vous ne pouvez rien faire, techniquement. Voilà. Vous pouvez, les opérer comme il a été prévu que vous les opériez. Dans le théâtre de l'économie, etc. Bon, on discutera. Je pose la question, est-ce que le pouvoir accidenté nous est permis ? Est-ce que nous nous l'autorisons ? Est-ce qu'il nous est autorisé ? Ou bien est-ce que, au contraire, nous sommes de tout cela que je viens de dire retirés ? Il nous est retiré de pouvoir accidenté ? Pour quelle raison, si c'est le cas, et jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel point nous est-il retiré la possibilité d'accidenter le monde ? Et pour quelle raison ? Est-ce que je suis clair ? Voilà. Il y va, et je m'arrêterai là-dessus, de deux questions que je peux juste signaler, que je ne vais pas développer, ou sinon peut-être dans la discussion. Derrière les questions globales que je viens d'indiquer, il y va pour moi de deux autres questions, l'une de justice et l'autre de principe. Alors la question de justice est la suivante. Comment se répartit la puissance de fer ? Comment se répartit la puissance de fer ? Est-ce qu'elle se répartit justement ou pas ? Que beaucoup d'entre nous ne puissent, au fond, rien faire. Que, dans notre plus grand nombre, nous ne soyons pas en mesure d'accidenter, au sens que j'ai essayé de faire réfléchir ce soir. Que nous soyons, par conséquent, réduits à l'impuissance. C'est une affaire, je crois, qui n'est pas assez mise en cause dans les discussions sur l'urgence. Bon, vous me ferez parler si c'est pas clair. Ça, c'est la question de justice. Comment se répartit la puissance de fer ? Est-ce que nous pouvons, dans notre plus grand nombre, faire quelque chose au monde, c'est-à-dire l'accidenter ou accidenter ce qu'il y a de telle sorte que les choses ne continuent pas selon leur logique économique majeure ? Ou bien est-ce que précisément l'économie, la logique de l'économie majeure ne consiste pas à nous mettre dans notre plus grand nombre dans la situation de n'avoir rien à faire et de ne pouvoir rien faire ? Alors je prendrai bien des exemples très simples. La plupart des habitations qui ont été construites dans les villes modernes sont telles qu'on ne peut non pas y habiter, mais y loger, et y loger, ça veut dire qu'un certain nombre de besoins de la vie sont satisfaits, mais pas le travail. Qui d'entre nous, dans quelles conditions, quel nombre d'entre nous peut travailler à domicile, au sens où se travailler voudrait dire faire quelque chose, etc., toucher aux objets, accidenter, bon, voilà. Donc est-ce que nous ne sommes pas, par l'économie majeure, réduits à une impuissance ? Et il y a quelque chose derrière ça qui est une question de justice. C'est que pas tout le monde, quand même, est impuissant dans le monde. Voilà. Donc comment ça se répartit ? La puissance d'opérer et l'impuissance d'opérer. Bon. Donc ça, c'est la question de justice. Et la question de principe, étant donné que Même si nombre de ceux qui mettent en scène le fer le dénient, ce que je vais dire, hein, même si nombre de ceux qui mettent en scène le fer le dénient, étant donné que les humains accidentent le monde, quand même, peuvent-ils encore le faire prudemment ? Pouvons-nous encore accidenter prudemment le monde ? Les humains ne sont-ils pas plutôt, pour la plupart, dans une situation d'impuissance ou d'exclusion quant à l'accidenté ? À ne pas affronter cette question, nous nous condamnons au théâtre opératoire dont nous sommes, pour le plus grand nombre, les spectateurs, non seulement impuissants, mais même acceptant souvent, à bien des égards, de l'être. Alors c'est là la question que je dirais de principe pour nous. Alors la question de justice, c'est comment ça se répartit. Et la question de principe, c'est si nous sommes dans une économie de type gravure de Dürer généralisée, si vous voulez, acceptons-nous la place du spectateur ? Voilà. Et si nous acceptons la place du spectateur, alors nous ne pouvons rien faire. C'est ça, d'une certaine manière, la question sur laquelle je m'arrête, parce que ben, je suis au bout des notes que j'ai prévues pour ce soir. Voilà. Bon. Je ne sais pas, comme toujours, si c'était clair, et sinon, posez-moi des questions, et j'essaierai de faire mieux. C'est-à-dire, attends, parce que je ne sais plus dans quel sens je l'ai posé, mais...
Sur « Peut-on encore accidenter prudemment le monde ?» Puisque tu nous avais proposé de penser un peu d'espoir...
Ah voilà, j'allais dire, bah, tu fais la réponse toi-même à la question, tu fais ma réponse toi-même à la question, c'est-à-dire, si l'espérance est possible, la réponse est oui. Bah, c'est ça, est-ce que nous pouvons espérer encore être prudents au sens que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire, est-ce que le monde est accidentable ? Sans que ça soit grave. Et ça dépend comment je me réveille, ça. Des fois, ça va, et des fois, ça va moins bien.
Non. Et peut-être sur la première question...
En tout cas, excuse-moi. En tout cas, si je dis que c'est une question de principe, c'est que, je ne sais pas si je me suis bien expliqué là-dessus, je ne pense pas, mais si je dis que c'est une question de principe, c'est parce que, avant de savoir si la réponse est oui ou non à la question que tu poses, il faut que nous, comment dire, que nous clarifions notre position, c'est-à-dire... Ça nous va ou ça nous va pas, la gravure de Dürer, pour définir la place qui est possible pour nous. Question de principe. C'est-à-dire, est-ce que nous admettons... je peux dire les choses tout simplement, la disposition de la technique, ou que la technique est capable, a plus de capacité, voilà, que la technique... appelons ça en général la technique, a plus de capacités que celles qui apparaissent dans son économie majeure. Voilà. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour répondre à la question que je veux dire, mais je ne la refuse pas par principe. Je ne refuse pas par principe de penser que même le nucléaire, qui n'a pas ma sympathie, est peut-être une technique dont les capacités... ne sont pas toutes mises en œuvre dans l'économie majeure de la centrale nucléaire. Ce qui m'est amené à dire de façon provocatrice une fois ou l'autre, dans centrale nucléaire, le problème, ce n'est pas tellement nucléaire, c'est centrale. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a une disposition de la technique, même qui, a priori, la retire au plus grand nombre d'entre nous. On ne peut pas accidenter. Voilà. Mais il y a d'autres exemples, évidemment. Alors peut-être, voilà, la question, c'est est-ce que cette technique est accidentable, prudemment, ou bien est-ce qu'elle est prise dans une mise en scène telle qu'il n'y a plus rien à en espérer. Et il faudrait passer en revue les techniques. Y a-t-il des techniques dont nous pouvons espérer quelque chose, c'est-à-dire dont nous puissions penser qu'elles soient prudemment, enfin, accidentables avec prudence. Voilà. Mais au moins faut-il faire l'hypothèse que la seule façon d'exister des techniques, ce n'est pas celle dans laquelle elles sont aujourd'hui disposées pour nous. Il faut au moins faire cette hypothèse. Même les techniques de l'Occident. Et donc, il n'y a pas de refus, loin de là, des techniques en soi dans ce que j'ai essayé de dire. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair, dit comme ça. Alors, il y avait une autre question.
Oui, c'était sur la question de justice.
La question
de justice. la oui. première de tes deux questions. Tu as l'air de penser donc il y en a certains qui sont en situation de puissance et d'autres en situation d'impuissance. Je ne sais pas si tu pouvais préciser quelque chose.
Est-ce qu'il faut que je précise ça ?
Oui.
Oui, j'ai l'air de penser ça, oui.
Oui, mais si tu peux préciser avec qui tu penses ou pas ?
À qui je pense ?
Qui tu imagines être en situation de puissance et,
La Silicon Valley, par exemple.
Oui, voilà. D'accord.
La Silicon Valley ou bien... je ne sais pas. Si je prends des exemples plus historiques, quelqu'un pour qui je n'ai pas une grande sympathie, M. Taylor, celui qui a inventé le taylorisme, par exemple. Voilà. Après, il faudrait faire des analyses plus subtiles, plus fines, plus poussées. Il me semble que j'ai essayé, comme j'ai pu, de faire entendre ça, de faire penser ça. Peut-être que ça rejoint ma réponse sur la centrale à l'instant. C'est-à-dire que peut-être que ceux qui ont... permis que se mettent en place des modes de production de grande échelle, c'est-à-dire finalement centralisés, enfin, etc. Bon, toute cette ingénierie de la grande taille est aussi une façon... c'est injuste. C'est injuste. Parce que entre les bureaux de conception, les bureaux de management et les opérateurs, il y a un divorce. Et c'est un divorce entretenu. Et qui peut-être même, à partir d'une certaine taille de centralisation, de privatisation, vaut mieux. C'est-à-dire que le plus grand nombre est mis par rapport aux techniques que ce plus grand nombre, dans lequel ce plus grand nombre est pris, ce plus grand nombre ne peut pas opérer. Ouais. En réalité, je pense, ça fait longtemps que je pense ça. Alors évidemment, tout ça, c'est du langage. On ne peut pas parler dans les bistrots avec ce langage-là, c'est ça le problème. Mais je pense depuis longtemps qu'au fond, nous ne travaillons pas assez. Alors je ne peux pas dire une chose pareille, je vais me faire jeter, quoi. C'est-à-dire, en fait, nous appelons travail depuis pas mal de temps quelque chose qui n'est pas du travail, qui est une situation d'employé dans un dispositif technique. Voilà. Donc, je résume ça d'une formule provocatrice. Nous ne travaillons pas. Le plus grand nombre d'entre nous ne travaille pas assez. C'est ça que j'appelle ce soir l'impuissance dans laquelle nous sommes mis. Voilà. Nous ne pouvons, pour le plus grand nombre d'entre nous, rien faire au monde, c'est-à-dire il ne peut rien arriver, accident, qui passe par nous. S'il arrive quelque chose, ça ne passe pas par nous. Voilà. Et donc, là, nous sommes purement passifs par rapport à l'arrivée des objets. Là, il nous est arrivé depuis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années un paquet d'objets par rapport auxquels, par rapport à l'arrivée de quoi, nous aurons été parfaitement impuissants. Pour notre plus grand nombre. Ça, c'est pas juste. C'est ça que je veux dire.
Dire que la gravure de Dürer décrit une situation d'emploi.
Oui. Ah, moi, cette gravure, depuis que je la connais, je la trouve capitale dans tous les sens. Alors, elle est de 1525, donc ça veut dire il faut ramener ça, des choses qui se sont développées à grande échelle sur le mode économique au sens d'aujourd'hui sont là. Il me semble qu'elles sont dans cette gravure. Oui.
Bonjour Pierre Damien, merci encore pour cette séance passionnante, c'était très clair. En t'écoutant, je me posais une question à propos de la complexité des objets techniques. Ne faut-il pas abaisser la complexité des objets techniques pour favoriser, autoriser le faire, la possibilité d'accidenter ?
Est-ce qu'il faut abaisser la complexité des objets techniques ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je sais répondre à cette question. Ma question, il va être déçu, Anthony, hein, après avoir été content. Enfin, je le salue, hein, évidemment. Mais, ma question, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ma question, c'était pas que faire, c'était qu'est-ce que faire. Parce que je ne suis pas évidemment en position, ça serait d'ailleurs pas juste, au sens que j'essaye de discuter, que moi je dise que faire. Voilà. Donc il me semble que j'ai quand même tenu un peu parole ce soir, en arrivant quand même à dire qu'est-ce que faire, voilà, opérer de façon matricielle. À la suggestion à baisser le niveau de complexité, peut-être, je commencerai par demander qu'il y ait, je ne sais pas comment dire ça, des vis pour ouvrir les capots, voilà, pouvoir aller travailler le matériel, etc. Regarder les matrices. Bon, elles sont accueillantes, etc. Mais pour qu'elles soient accueillantes, il faut qu'on puisse les considérer. Il faut qu'il y ait une rencontre avec la matrice elle-même. Dans un appareil photo d'avant le numérique, est-ce qu'il est moins complexe que ceux du numérique? Sans doute, il y a moins d'objets entassés à l'intérieur. Mais d'abord, il peut être considéré dans son sein. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'objets ne sont pas considérables dans leur sein même. Donc il ne nous reste plus qu'à être assignés par rapport à eux. Donc moi, peut-être je dévierais un petit peu la proposition décomplexifiée en parlant. Alors je sais, ces mots, il n'y a peut-être pas de mots qui ne puissent être récupérés, mais... S'il faut répondre par un « il faudrait que nous puissions considérer... » Voilà, je vous fais cette proposition, que nous puissions considérer la technique dans son sein même. Voilà.
T'as parfois relevé, je pense au texte de Gropius, le mot « simple ».
Oui, oui.
Faire plus simple, faire simplement, faire...
Ben, alors, c'est peut-être simplement que je ne fais pas que me répéter. Comment dire, je répète, mon sujet, c'était pas que faire, mais qu'est-ce que faire. Mmh. C'est pas la même question. Alors, que faire, bon, peut-être plus simple. Le simple, je l'oppose au moins... à l'ornementer. Voilà. Et peut-être qu'il y a toute une ornementation dont la fonction, si elle en a une, de l'objet, c'est d'aller à l'encontre de sa découverte. Peut-être c'est ça que je pourrais répondre mieux à Anthony. S'il faut répondre avec le « il faut travailler dans le sens de la découverte des techniques. Et le simple... le plus simple appareil. Le plus simple appareil. Et c'est aussi ça, le jeu de mots qui est derrière. C'est-à-dire mettre à nu que la technique puisse être mise à nu, qu'il n'y ait pas de secret. Qu'il n'y ait pas de secret de fabrication, par exemple. Vous savez bien qu'il y a toute une économie du brevet qui nous retire le droit de regarder de quoi il s'agit. Il y a des secrets. Alors c'est ça aussi. Le simple, dans mon esprit, c'était... il y avait ce jeu de mots, ça j'en suis sûr. Ça, j'avais trouvé ça chez Raymond Loewy pour des tas de raisons, parce que son livre commence sur une scène de séduction, et je pense que c'est... Il y a un rapport avec... quand ensuite, il a obsédé, si j'ose dire, par le simple, d'une certaine manière, pour moi, il pense à ça, quoi. C'est-à-dire la mise à nu. Qui fait que l'objet n'est pas... que l'objet peut être révélé, hein, dévoilé, revoilé peut-être, mais en tout cas dévoilé. Voilà. Enfin, l'objet. Les objets. Je ne sais pas si je réponds.
Il a dit que c'était très clair.
Oui.
Il est content quand même?
Oui.
Ouais, c'est super.
Toujours content. Moi, j'aurais une petite remarque, pas très articulée, pardon, je ne serais pas capable de faire plus, mais de ce que vous avez dit un petit peu à propos du théâtre.
Et je m'en doutais.
Et du spectateur et de la mise en scène. J'ai l'impression que vous liez ces notions du spectateur et de la mise en scène au théâtre, alors que vous ne le faites pas pour le cinéma, ou la photographie ou la peinture, où on peut tout autant être spectateur et devant des formes de mise en scène, il me semble.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, Brecht, c'est pas rien pour moi. Et c'est un homme de théâtre. Mais c'est quelqu'un qui fait, comme je trouve, fait du cinéma en allant chercher les capacités, en faisant du théâtre un appareil. Et non pas, j'ai dit quand même au passage, je pense, faisant du théâtre un appareil et non pas un instrument, pardon. Donc, en effet, je n'exclus pas qu'il y ait dans ce qu'on appelle théâtre des capacités que l'économie majeure du théâtre, qui nous vient d'Aristote, au fond, exclut. Voilà. On peut faire autre chose avec le théâtre que de la catharsis, pour le dire vite, que de la mise en scène, etc. etc. Bon, ben oui, bien sûr. Mais il n'empêche que il y a dans le fond de pensée qu'on pourrait appeler Occident, quelque chose qui joue. Alors, je ne suis pas assez helléniste et j'ai des doutes, il faudrait que je vérifie, mais enfin. En tout cas, comme dispositif comme dispositif du regard, disons, le théâtre est quand même, dans son architecture initiale, quelque chose d'assez assignant. Voilà, le spectateur est assigné. Il y a quelque chose du spectateur à sa place qui ressemble beaucoup, je trouve, à quelque chose du consommateur aujourd'hui à sa place, qui est appelé, dont la vocation en tant que consommateur est de ne pas accidenter les objets, c'est-à-dire de n'y pouvoir rien faire. Un peu quand même comme... comme dans, pas tout le théâtre, mais comme dans beaucoup de théâtre. Comme pareil pour le cinéma. Le cinéma dominant,
oui, c'est...
évidemment. Voilà.
Mais Brecht, c'est un théâtre au temps des appareils, pour reprendre...
pour moi, oui.
Enfin, pour Benjamin, en tout cas, dans sur Brecht, les questions que de théâtre à l'époque du radiophonique.
Oui, oui.
Donc c'est effectivement pas toute l'histoire du théâtre.
Non, mais je me disais que même devant un tableau, par exemple, on n'est pas tout à fait assigné à une place, mais quand même un peu. Non, mais parce que ça me fait penser à la notion d'étonnement dont vous avez parlé à un moment au début du séminaire aussi. La possibilité d'être étonné, ému, déplacé. Qui est, alors on n'est peut-être pas spectateur au sens de ce que vous dites là, mais on n'est pas non plus dans le faire, et pourtant on est dans un temps qui n'est pas un temps chronologique, qui peut-être aussi implique une certaine capacité de disponibilité, de réception, d'accueil. Voilà, ça va pas plus loin ce que je viens de dire, mais ça me fait cette histoire d'être en dehors du faire et en même temps c'est un entre-deux, quoi. Ni tout à fait dans le faire, ni non plus consommateur. Le spectateur au sens du consommateur me semble. Enfin, je me demande si l'expérience esthétique, c'est pas ça. Enfin, je dis ça depuis ce que j'ai pu entendre, en tout cas moi, au moins dans ce séminaire-là, depuis le début, quoi.
Bon, de toute façon, c'est un séminaire, hein, c'est-à-dire... Moi, évidemment, je travaille, j'écris, je réécris mes formules avant de vous les dire. Ça ne veut pas dire que j'ai fini, c'est-à-dire très possible que demain je reprenne ça et que je réécrive. Parce que je me dis non, ça va pas du tout, c'est pas assez. Bon, c'est un séminaire, donc bon, rien ne dit que les formules y soient satisfaisantes ou suffisantes. Mais dans ce que vous avez dit à l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser que ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aurais essayé quand même de mettre un peu dans la réflexion, est-ce que quelque chose qui aurait été fait, peut me faire quelque chose ? C'est-à-dire que je regarde le tableau, je suis en position dominante. Voilà. Est-ce que ce que je regarde peut me faire quelque chose, c'est-à-dire me déplacer dans ma position même de sujet ?
Voilà.
Alors, en tout cas, j'ai parlé ce soir de la songerie en disant finalement, oui, ce long plan, je n'arrive à me dire qu'est-ce que ça a été pour moi que l'expérience de ce plan, c'est un plan qui m'a distrait. Littéralement, c'est un plan qui m'a distrait, c'est-à-dire je ne l'ai pas regardé avec la même attention d'un bout à l'autre. Je ne peux pas et je pense que personne ne le peut, que c'est commun. Alors après, est-ce qu'on le reconnaît à la sortie ? C'est-à-dire, est-ce que même à la limite, on peut dire, tu sais, à un moment, dans ce plan, j'y étais plus. Voilà. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle que je n'y sois plus dans ce plan. C'est qu'il était en train de me travailler. Mais pas de manière telle que j'ai toujours la maîtrise sur ce qui est en train de me travailler. C'est-à-dire, je veux dire, je sais ce que je vois. Non, c'est en train de me travailler, c'est-à-dire que je ne sais plus où je me trouve, je ne sais même plus si je le regarde vraiment. Voilà. Il me travaille, ce plan. Et il n'a pas, depuis que je l'ai vu, il n'a pas cessé de me travailler. Ben, ça, c'est quand même pas rien, une chose qui me travaille à ce point. Voilà. Alors, c'est, encore une fois, ce n'est pas avec ça que nous allons nous nourrir au jour le jour. Mais quand même, c'est ça la question de principe, penser qu'on peut faire, qu'il peut être mis au monde des choses pareilles, qui nous font quelque chose, et pas que je regarde. À l'inverse, la théorie de la perspective, alors c'est pas le perspectographe de Dürer, mais la théorie de la perspective, au fond, Dürer, il fait sa gravure pour dire, écoutez, les garçons, parce que c'est plutôt masculin, quoi. Bon, lire Alberti, c'est compliqué, c'est un siècle avant, hein. La théorie de la perspective, bon, c'est quand même compliqué. Alberti dit lui-même, il faut quand même être un peu mathématicien. Construire une scène en perspective, c'est... J'ai un truc pour vous, quoi, hein, qui vous donnera le savoir-faire sans... vous allez gagner du temps. Mais chez Alberti, la position du spectateur, ça se lit dans le texte. Elle est assignée. Hein, c'est-à-dire... il y a un point de vue à partir duquel le sens du tableau se donne.
La scène se dévoile.
Qui consiste pour le spectateur à venir occuper la position du... il n'occupe pas la position du concepteur de la scène, il occupe la position qui est telle qu'il ne peut plus qu'être comme le dessinateur qui a la scène déjà en vue et qui, à partir de ce moment-là, ne fait plus rien que voir comme c'est. Qui est un opérateur, au fond, parfaitement théorique. Au sens où, dans la théorie, il y a voir. Il y a un voir spectaculaire, un voir théâtral. La théoria, c'était la procession, la queue que les gens faisaient avant d'entrer au théâtre. Ça s'appelle théorie dans le vieux grec. Donc, c'est le théâtre est le lieu d'aboutissement de la théorie. C'est quand même intéressant à méditer. Dans le vieux grec. Et moi, je pense qu'en fait, le vieux grec, dans une certaine mesure, nous habite toujours, pas sa langue. Parce que si sa langue nous habitait, on pourrait décrypter. Justement, on ne parle plus le grec. Mais ce qu'il y a de pensée là-dedans, c'est toujours là pour nous. Nous occupons, dans l'économie majeure, nous occupons toujours... Quant à la technique, une place théorique et pas une place opératrice. Alors, c'est pas qu'on est dans les secrets de fabrication, mais on est spectateur du monde avec lequel on vit. Voilà. En tout cas, cette idée m'est venue plus que jamais en préparant cette séance. Vous vouliez dire quelque chose ?
Non.
Ah, j'ai cru, pardon.
D'abord, merci, parce que c'est la dernière séance aussi. Et c'était vraiment très bien. Je trouve que ça précise des choses. Je trouve que la définition du faire, elle est vraiment, vraiment intéressante. J'ai pu me tromper d'ailleurs sur ce que ça voulait dire faire avant, enfin, ce que ça pouvait vouloir dire pour toi faire avant ça. Je pense qu'il y a des choses que j'ai pensé, je pourrais pas penser pareil. Et je pense notamment même pouvoir faire, mais donc pouvoir faire avec un appareil, pouvoir faire avec un appareil photo en particulier, pouvoir régler. C'est pouvoir accidenter et c'est pas pouvoir contrôler, parce qu'on peut aussi le formuler comme ça, c'est-à-dire c'est pouvoir régler, c'est pouvoir contrôler la sensibilité, l'ouverture, etc. Mais pouvoir accidenter, je trouve.
Alors est-ce que j'ai dit ça, pouvoir accidenter?
Oui.
Je l'ai dit?
Ben, je crois non.
Il n'y avait pas pouvoir, je crois.
Je pourrais pas faire de rectificatif parce que c'est.
Donc il y avait accidenté.
Est-ce que le pouvoir accidenté nous est permis?
Oui. Ah oui, à la fin. Moment de faiblesse.
Je pense que
t'as même
répété pas mal
ouais.
De fois.
Ouais, ouais.
Le pouvoir.
Non, accidenté. Mais je répète. Bon, en anglais, il y a la différence entre we can et we may. Hein. Donc, il faudrait la langue française que j'ai donc maniée, peut-être pas assez précisément. En tout cas, il faut que j'apporte une précision sur le pouvoir accidenté. Ça serait mieux si j'avais dit est-ce que l'accidenté, ER, est possible pour nous? Voilà. C'est-à-dire. Dans le travail, si on travaille vraiment avec un appareil photo. Le photographe admet que l'appareil peut accidenter le visible dont lui, s'il était tout seul, est capable ou resterait capable. L'appareil photo donne une capacité de voir le monde qui n'est pas dans la visée du regard de l'opérateur seul. Faut être deux. Et il faut que. Enfin, il faut. En tout cas, c'est ça que j'essaye de dire, quoi. Penser que. L'appareil lui donne quelque chose qui, forcément, pour lui, est un accident. Forcément. Enfin, là aussi, je retire cet adverbe. Non, le pouvoir, si j'ai dit pouvoir accidenté, je pense que j'espère quand même que j'ai dit autour des phrases comme « Est-ce que nous nous autorisons ça ?»
Oui, c'était le pouvoir accidenté nous est permis si nous l'autorisons.
Oui, ouais. Voilà. Donc, c'est important pour moi de faire la précision. Parce que je pense que l'économie, dans ce que j'appelle ce soir l'économie majeure, la disposition majeure de la technique, il y a un interdit, enfin le contraire d'une autorisation. La disposition majeure de la technique ne nous autorise pas l'accident. Je prends un exemple très simple. J'ai écouté avec beaucoup de. Je ne sais pas comment dire, hein, jusqu'au bout. L'audition de Arnon Montebourg par la commission parlementaire concernant la souveraineté énergétique de la France, de l'État français plutôt. Et à la fin, il évoque, il a quand même été ministre de l'Industrie, lui, ce qui n'est pas mon cas. Bon. Il évoque comme étant un enjeu le fait pour substituer, si on estimait qu'il faut le faire, ce qui n'est pas non plus sa position, ou compléter l'approvisionnement énergétique en nucléaire d'un pays comme la France par du renouvelable solaire. Pourquoi, dit-il, faudrait-il que nous recouvrions des terres arables par dizaines et dizaines d'hectares de concentration de panneaux solaires, alors que des calculs thermiques montreraient qu'un panneau par toit donc, couvrirait. Question, à mon avis, capitale, parce que le panneau solaire sur mon toit, à condition que je puisse y accéder, or justement, la plupart d'entre nous, l'économie majeure leur réserve une place telle que accéder à son toit, à son propre toit, n'est pas possible. Enfin, je pourrais accéder à un panneau, je peux m'en occuper, pour le dire dans un langage tout à fait banal. Un champ entier de panneaux solaires, donc une centralisation de la chose, je ne peux pas. Donc la centralisation d'une technique, c'est la même technique. Un panneau par toit ou un champ entier. Bon, outre que écologiquement, le champ entier, c'est une terre cultivable, ne l'est plus. C'est quand même. Bon, il y a de quoi réfléchir. Mais en tout cas, quand c'est un champ entier, les conditions économiques de la même technique rend la technique inopérable pour la plupart d'entre nous. C'est ça mon problème. Voilà. Et c'est la même technique. C'est la même chose qu'on peut faire une photographie en disant la qualité d'une photographie, c'est la qualité du cadrage, c'est-à-dire de la visée. On peut dire la qualité de la photographie, c'est ce que l'appareil lui a apporté avec son réglage spécifique, etc., qui n'est pas sur lequel peut-être, à la rigueur, le photographe fait un pari, mais dont il ne peut pas être sûr. Straub ne peut pas être certain de ce qui va arriver dans son plan quand il fait cet énorme travelling, c'est pas possible. Donc c'est un lieu d'accident. Bah, oui. Est-ce que je suis clair? Donc ça, c'est un enjeu. Voilà, s'il faut trouver des cas qui ne sont pas artistiques, disons. La taille, la même technique, suivant qu'elle est placée ici ou là, dans tel environnement, pour garder un mot banal, que, elle n'a pas les mêmes capacités et les mêmes conséquences. Elle n'a pas les mêmes capacités parce qu'elle n'a pas les mêmes conséquences.
Je me demandais si... tu t'inquiètes de... J'ai l'impression que tu t'inquiètes de la mise en dispositif de la vie, d'un dispositif qui serait total, dans lequel il n'y aurait plus d'accident possible. En fait, je me demande si ce dispositif-là, il n'est pas plus fantasmé par ses concepteurs que qu'effectivement réalisé.
Bonne nouvelle dans ce cas-là.
Bah, c'est une bonne nouvelle, mais enfin, je crois que, même, par exemple, un dispositif tel qu'une ville planifiée comme elles le sont, c'est un dispositif qui échoue bien souvent, heureusement, dans lequel il y a des accidents malheureux et heureux, et des dévoiements et des bricolages. Et je me demande, mais alors je ne vais pas pouvoir aller au bout de ma question, puis, parce que je ne connais pas suffisamment, mais je me demande si ce n'est pas aussi de ça dont il est question dans le travail de Michel de Certeau.
Ah bah, et comment?
Sur les arts de faire.
Oui, bien sûr.
Et je me demandais si, si tu avais... d'abord, il y a le mot qui t'occupe, qui nous occupe là, même deux, si tu pouvais commenter ça. Et il me semble aussi...
Ouais, ça, les arts de faire de Michel de Certeau.
Les arts de faire, oui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui répond à la question « Pouvons-nous encore accidenter prudemment le monde ?» Une façon de relever dans le détail des conduites humaines tout l'accident qui habite le détail de ces conduites.
Alors deux choses. Ça, ce que tu dis me fait penser à deux choses. Peut-être il faut que je précise sur deux points. Le premier, c'est que les humains, de fait, n'aient cessé d'accidenter le monde, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville réelle qui ne soit tôt ou tard autre que ce que ces concepteurs, s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours, voulaient qu'elle soit. Alors, même Brasilia n'est pas. Et même, Niemeyer le disait lui-même, Brasilia n'est pas ce que j'ai conçu. Et tant mieux, il n'était pas du tout. Bon, bref. Donc les humains, au fond, aient passé leur temps à accidenter, à ne pas, si j'ose dire, rentrer dans les dispositifs tels que ces dispositifs prétendent disposer d'eux. C'est ça l'histoire, en fait. L'histoire est faite des indispositions, si j'ose dire, de l'humanité. Mon problème, c'est que l'urgence telle qu'elle est présentée aujourd'hui, et pourquoi l'est-elle comme ça ? C'est une de mes questions. L'urgence telle qu'elle est présentée aujourd'hui est telle que est présentée de telle sorte, elle en fait est théâtralisée, si je vais tout de suite à la conclusion de mon discours, de telle sorte que, en fait, il en résulte peut-être ceci, nous sommes arrivé anthropocène dans une nouvelle époque de l'histoire, pas seulement de l'humanité, mais du planétaire, tel que s'insinue dans nos esprits, à nous qui n'avons cessé depuis la nuit des temps d'accidenter le monde, il nous est susurré, et plus que susurré, qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus rien faire. Et c'est ça qu'on appelle urgence. Et j'ai construit ce séminaire pour essayer de penser contre ça. Est-ce que je dis ça clairement ? Ah, ben alors c'est bien. Bon, alors ensuite, alors je ne peux pas faire mieux là tout de suite. Hein. C'est pour ça que c'est pour ça. Bon, vous avez échappé au numéro sur l'espérance parce que j'ai trop parlé et donc c'est reporté à l'année prochaine. Mais c'était quand même l'idée. Hein, il faut qu'on parle de l'urgence et qu'elle se présente. On en ressort de l'expérience de l'urgence pressé, pas comme un citron, mais comme une olive, mais on en ressort converti et avec quelque chose à mettre au monde, la fameuse huile d'olive, pour rester dans la métaphore de Saint-Augustin. Bon, alors ensuite, Michel de Certeau... alors, en fait, pour parler de Michel de Certeau, il faudrait peut-être que je parle à deux niveaux. Alors, premièrement, moi, peut-être j'avais pas bien lu Foucault, je pense que c'est le cas, mais enfin, quand m'est venue à l'esprit la notion d'appareil, toutes ces choses-là, c'était quand même assez contre le mot dispositif tel que je le comprenais. Et d'ailleurs, je me souviens d'une conférence qu'on m'avait demandé de faire à Metz, où j'avais « Pourquoi vous ne parlez pas de dispositif ?» Alors, j'ai compris qu'il fallait que je fasse, pas allégeance, mais référence à Foucault. Et donc, j'ai dit ça. J'ai dit « Parce que moi, dans dispositif, c'est peut-être pas ce que Foucault veut dire, mais ce que j'entends, c'est disposer, alors qu'appareil, c'est justement pas. Bon, » au sens où un dispositif disposerait de moi, de nous. Alors, chez Foucault, c'est probablement plus compliqué parce qu'il y a le premier, le deuxième, le troisième Foucault. Enfin, il y a plusieurs Foucault, finalement. Et puis, bon, on a beaucoup fait, beaucoup parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, du texte qui est assez vieux chez Foucault sur l'hétérotopie. Et si on lit ce texte-là, on voit bien que, il me semble que c'est clair que pour Foucault, ce qu'il appelle, est-ce qu'il l'appelle déjà dispositif ? En tout cas, ce qu'il appellera dispositif, c'est un truc ambigu. C'est-à-dire, il n'y a pas de dispositif chez Foucault qui ne puisse, d'une certaine manière, se déporter, être déporté. C'est pas un enfermement radical, quoi. Il y a des échappées, c'est ambigu, voilà. Donc peut-être que la pensée de Foucault est plus complexe sur le dispositif que ce que j'ai pu en comprendre dans un premier temps. Il n'empêche je parle de ça parce que Michel de Certeau, quand il écrit Les Arts de Fer, c'est quand même dans une perspective critique à l'égard de Michel Foucault. Je pense que c'est assez clair dans le livre. Et donc il y a une espèce d'explication avec la notion de dispositif. Et donc de Certeau, j'ai fait des années cours en faisant lire autant que je pouvais au moins des passages. Pour moi, livre très, très important. Il n'empêche que l'armature du livre, c'est de distinguer entre le registre de la stratégie et le registre de la tactique. Et donc il y a les stratèges qui, au fond, essayent de... Ils visent, ils ont des objectifs. Enfin, ils sont dans l'économie dominante que j'essaie d'écrire ce soir, stratégie. Ils atteignent des cibles, ils essayent d'enfermer, de territorialiser, enfin tout ce que vous voudrez de ce type. Et puis les usagers, comme dit malgré tout de Certeau, c'est ça les arts de fer, se révèlent en mesure d'opposer aux stratégies des stratèges des tactiques d'usagers. Donc, dans notre plus grand nombre, nous ne serions pas des stratèges, mais des tacticiens, si je résume très très rapidement le livre de la thèse de Michel de Certeau. Ce qui me gêne là-dedans, ce qui m'a toujours gêné, ce qui ne veut pas dire qu'il a tort, hein, je me dis simplement, j'ai un problème avec ça, je suis gêné, c'est qu'il me semble bien qu'il lie la tactique à la ruse. C'est-à-dire une façon... on peut dire pas sournoise, etc. Mais le tacticien ruse avec les stratégies du stratège. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une ruse ? Voilà. Est-ce qu'on peut être rusé et être franchement... Est-ce qu'on peut être franchement rusé ? Voilà. Donc ça me gêne. Est-ce qu'une ruse peut être franchement une ruse ? Non ! Il me semble que la ruse implique... l'opération en douce. Alors, en douce, c'est bien parce qu'il y a douceur, mais vous savez très bien qu'en français, le coup en douce, c'est un coup. Voilà. Alors, est-ce que la tactique, c'est le mot qu'il faut ?
Et puis, il y a quand même, il me semble, il y a des situations où des objets avec lesquels on ne peut pas ruser. Avec lesquels on ne peut pas ruser. Enfin, avec un ordinateur Macintosh, a priori, on ne peut pas ruser.
Ça serait intéressant que...
Adrien, peut-être que t'as un avis.
Enfin, peu de gens peuvent ruser. Peut-être pas grand.
Non, mais il y a des systèmes suffisamment fermés pour qu'on puisse pas ruser du tout.
Je pense que pas ruser du tout, on peut trouver, des types qui vont faire un... qui vont faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'on peut trouver des gens qui sont capables de faire vraiment des choses très inattendues avec un appareil comme ça. Mais bon, c'est vraiment pas la plupart, quoi.
Tout à l'heure, il y a des questions d'emploi, le
plus grand nombre d'entre nous...
Cela dit, on pourrait mener une étude sur ce genre de questions, c'est-à-dire, le moment est venu, on est quoi, 40 ans après, de refaire le travail de Certeau avec éventuellement les mêmes méthodologies, et de voir si il en est parmi nous qui sont capables de ruser avec cet ordinateur dont tu as donné le nom de marque, mais que je ne répéterai pas. Parce que peut-être la question est autant sur l'ordinateur en général, finalement. Je ne sais pas où cette marque va. Bon, il faudrait refaire le travail et voir s'il y en a qui rusent, s'ils sont nombreux ou si c'est seulement quelques-uns, etc. Mais moi, je voulais quand même poser une question qui est, je ne sais pas comment dire ça, au-delà de la ruse, quoi. C'est-à-dire... Straub, quand il fait son plan, les Straubuyers, quand ils font leur plan, ils rusent pas, quoi. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de fait en douce, tout est là. Il y a une note de Kant, le vieux Kant, dans la critique de la faculté de juger, qui est pour moi un texte que je relis. Donc il va être question d'art. De d'art, on peut dire aussi de technique, par extension du mot. Et il met une note étrange qui dit en substance, dans mon pays, on appelle, il donne raison à son pays, en l'occurrence, on accepte d'appeler artiste le funambule, le prestidigitateur, non. Voilà. Et tous les deux sont des opérateurs. Le prestidigitateur, il fait quelque chose. Alors, pourquoi il écrit ça? Quel rapport avec la question? Alors, moi, je médite là-dessus, ça m'intéresse beaucoup, et je me dis, finalement, la position qui m'intéresse, c'est la position du funambule. Parce que, chez le funambule, toute la technique est exposée. Quand il opère, tout est là. Le danger, l'équilibre instable... Tous les ingrédients de l'opération sont là. Le prestidigitateur, par définition, non. Il faut qu'il soustrait à la vue le truc du truc. Voilà. Eh bien, je dirais que c'est peut-être ça la question, c'est-à-dire les arts de faire chez Michel de Certeau, c'est le tacticien a quelque chose d'un prestidigitateur. Voilà. Et moi, j'essaye de parler pour le funambulisme. Ça ne veut pas dire que j'ai raison pratiquement. Peut-être qu'il vaut mieux... comme j'ai dit à un moment dans le séminaire, faire moins mal, c'est mieux. Mais ce n'est pas faire bien. Alors peut-être que c'est mieux, au sens de moins mal, d'être usé. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Et peut-être que mieux encore, ça serait de pouvoir être comme des... nous promener dans le monde comme des funambules avec nos objets techniques. En tout cas, ceux qui nous les amènent, à nous dans notre plus grand nombre, ce sont peut-être des prestidigitateurs. Et c'est une partie du problème. De même que la gravure de Dürer, une fois que l'artiste aura fait son travail, on retire le perspatographe, on retire la scène et on est tous ébahis. Ah, quelle image! Comment on peut dessiner une femme pareillement? Voilà, aussi bien. Enfin, on est. Bon. Alors, c'est pas. Est-ce que c'est de l'étonnement? Non. C'est du ravissement.
Écrit sur ta critique de la centrale, je trouve encore un écho chez Simone Weil, page 144, de ses réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Donc, il cite « L'unique possibilité de salut consisterait dans une coopération méthodique de tous, puissants et faibles, en vue d'une décentralisation progressive de la vie sociale. »
Incroyable.
Une telle coopération ne peut pas s'imaginer, même en rêve, dans une civilisation qui repose sur la rivalité, sur la lutte, sur la guerre. En dehors d'une telle coopération, il est impossible d'arrêter la tendance aveugle de la machine sociale vers une centralisation croissante, jusqu'à ce que la machine elle-même s'enraye brutalement et vole en éclats.
À quoi j'ajoute que la coopération dont parle le texte... Alors c'est Naïm, chapeau pour nous mettre un texte en direct... La coopération dont il est question dans le texte de Simone Weil, si j'ai bien entendu le texte, je ne dirais pas, c'est pas que je l'élargirai, mais je commencerai par la poser dans le rapport, pas avec les autres humains au sens où on dit couramment mes semblables, mes pareils, mes égaux, enfin, etc., mais la coopération avec la technique elle-même. Dans la gravure de Dürer, il n'y a pas de coopération entre le dessinateur et le perspectographe. J'allais dire, au fond, dans la gravure même, personne ne fait rien vraiment dans cette affaire, même le dessinateur, puisque son geste est anticipé par le dispositif. Il ne fait rien. Et donc, moi, je ferai commencer... c'est ça la question, disons, initiale, question de principe. C'est les opérateurs techniques eux-mêmes, les machins, est-ce que nous les considérons comme des... j'allais dire partenaires, enfin bon, en tout cas plus que justement comme des instruments, plus que comme des instruments. Allez, encore une.
Ouais, c'était sur... au fond, est-ce que tout savoir est prévisionnel ? Je m'expliquais, je repensais à ce que tu disais sur la crainte, qu'il y aurait des craintes vis-à-vis d'une technique qui conduirait à les planifier, enfin, à avoir des prévisions, et du coup à les limiter dans la possibilité différentielle. Et effectivement, je pensais à ce qui s'est passé dans les années 50 à l'école d'Ulm, enfin à ce moment charnière où on a probablement planifié enfin, l'utilisation des techniques, enfin en design. D'ailleurs, le designer est devenu planificateur, le mot est présent. Et je pense effectivement que c'est, qu'au départ, c'est issu d'une crainte. Puisque l'école d'Ulm elle-même, elle s'est fondée. Au départ, c'était une école des sciences politiques et sociales, et c'était une fondation antifasciste montée à la suite de la Seconde Guerre mondiale.
C'était une fondation,
une
pardon.
Fondation antifasciste.
Antifasciste. Oui, oui, ah oui, parce par, que je... oui, par, faut bien le dire. Oui,
oui, oui. Par un frère et une sœur, des Scholes, voilà, et l'idée c'était.
Anti-nazi même, anti-nazi.
Anti-nazi, oui, ouais. Voilà. Et l'idée c'était. Enfin, il me semble qu'il y avait derrière quelque chose comme contrôlé par des savoirs une partie de la production. Et donc, effectivement, il y a une façon d'articuler les savoirs dans cette école aux productions qui a tendance à contrôler ou à planifier la production. Et j'ai en mémoire un texte de Laszlo Molinage qu'il avait écrit dans les années 30 et publié après, où lui, il avait un point de vue moins inquiet, finalement, et moins limitatif. Où il, alors, j'ai pas les mots, mais ça résonne comme ça dans ma mémoire, qu'il fallait, au fond, faire confiance ou ne pas hésiter à utiliser. Alors, je crois qu'il disait les puissances, mais est-ce que c'est dans la traduction, est-ce que c'est moi qui me souviens mal, les puissances de l'industrie, des moyens de production industrielle, tant qu'elles ne tombaient pas entre les mains d'ignorants. Alors, au fond, mon idée, c'est de te demander si est-ce que tu serais d'accord pour dire que tout savoir n'est pas prévisionnel. Enfin, manifestement, chez Laszlo Molinage, il y a quelque chose, des savoirs qui seraient nécessaires, il ne faudrait pas être ignorant, mais qui ne serait pas forcément contraignant, voilà, étant donné que la Seconde Guerre mondiale a été un accident pas très heureux.
Eh bien, c'est un sujet pour l'année qui vient. Est-ce que tout savoir... redis, s'il te plaît, la question.
Au fond, est-ce que tout savoir entre dans une prévision selon Molinage, il ne faut pas faire en étant ignorant, quoi. Il faudrait faire de façon un peu confiante, ouverte, multiple, mais pas laisser tomber ça dans les mains d'ignorants. Voilà. Et il écrit, enfin, il faudrait que je vois, c'est publié après, et je ne pense pas que ça ait été retouché, mais je pense que c'est un texte qui date des années 30, par contre, donc d'avance. Hein.
Oui. Je pense que c'est quand même toujours délicat quand on amène le savoir, hein, et ce partage entre ceux qui savent et ceux qui savent pas, les savants et les ignorants. Bon, il y a les fameux textes de Rancière là-dessus. Hein, là, à cette heure-ci, spontanément, j'ai quand même. Alors, il faudrait que je voie le texte de Moholy. Ça m'intéresse. Si Moholy a dit ça, bon. Mais j'ai quand même un petit peu tendance à penser que, en tout cas, le savoir sert d'argument exclusif et excluant. Tu ne sais pas, donc contente-toi de la position du spectateur qui t'est assigné. Ouais, c'est peut-être quand même un problème, justement, que nous soyons, pour la plupart d'entre nous, positionner, comme on dirait aujourd'hui, dans la position finalement de l'ignorant. Voilà. Et donc, au nom de ça, nous est retiré le droit d'opérer. Mais après, en effet, il faut toujours se poser des questions. Hein, donc, il faut examiner s'il pourrait exister quelque chose qu'on appellerait quand même un savoir et qui ne serait pas ce que je viens de critiquer. Mais je sais ce que je voulais te dire en écoutant. Moi, là, j'ai fait appel au vieux concept grec de prudence tel que je le comprends. Donc, c'est des questions que je me suis posées. Quelle est la différence entre la prudence antique et la précaution au sens de ce qui est inscrit dans la Constitution chez nous aujourd'hui? Le principe de précaution, moi, c'est que c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment emballé à 100%, quoi. Qu'est-ce qui se dit là au juste? Voilà. Rousseau parlait de prévoyance. Il me semble, comme quand il dit prévoyance au 18e, en fait, c'est une façon de traduire la sophrosyné, la prudence. Il me semble que la prudence au vieux sens grec, c'est quand même la position ouverte à un humain qui ne sait pas. Et qui a quelque chose à faire alors même qu'il ne sait pas. Et quand Rancière parle dans Le Maître ignorant, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui disent « Monsieur, je ne peux pas lire ce livre de... » Comment il s'appelle déjà celui qui est le livre qui est à lire ? Jacotot, merci. « Je ne peux pas lire ce livre, je ne sais pas lire, etc. » Et Jacotot répond « Ouvrez quand même et commencez. » Voilà. C'est-à-dire « Essayez. » Alors évidemment, il est probable que ce lecteur malhabile va accidenter le texte dans sa première lecture. Mais c'est pas, justement, ce n'est pas grave. Alors que nous, si nous accidentons, si nos enfants, évidemment ignorants par définition, pas comme nous, se mettent à faire quelque chose à cet ordinateur, c'est trop précieux, ça coûte trop cher pour que nous puissions les laisser faire avec... Et donc, ça y est, on les a retirés de l'opération technique. Bon. Après, ouais. Peut-être que c'est en effet parce que ces objets sont trop complexes qu'ils sont pas travaillables et accidentables. Ouais. Donc à ce moment-là, je reviens à la première question. Bien, bon. Peut-être il faudrait, autant que nous pouvons, pour autant que nous ne soyons pas impuissants, et pour autant que nous pensions comme tels. C'est ça, c'est la question de principe et toute la discussion pour moi avec Agamben. Pour autant que nous ne sortions pas de l'idée que ça serait mieux pour nous si nous pensions comme puissants. Justement, nous ne pensons pas comme puissants. Nous ne parvenons plus à nous penser comme puissants. Et peut-être même sommes-nous quasiment interdits de nous penser comme tels. Je fais ce que je peux pour que nous essayions de nous penser comme capables. Et sans... ouais, c'est tout, je m'arrête.
Est-ce qu'on s'arrête là ?
Oui. Je salue amicalement tous ceux qui sont là-bas et qui m'ont écouté avec tant de patience. Et je vous remercie tous et toutes pour la même raison. Voilà.
Merci. Sur des remerciements de Pablo Gomez.
Je salue Pablo tout particulièrement. Je ne lui ai pas dit un mot de toutes ces séances.
Excellent séminaire.
Question
Christian Perrin.